La banquise, tant qu'elle est là, elle nous rend plein de services parce qu'elle stabilise tout ça. Mais là, on est vraiment en train de prendre une direction un peu apocalyptique pour la banquise de l'Arctique. Dès le début des années 2030, on pourrait avoir des mois de septembre sans banquise dans l'Arctique. Ouais. Et donc avec des conséquences chez nous assez terribles sur notre sécurité alimentaire, notre sécurité énergétique et la sécurité nationale tout court. Si on veut éviter d'atomiser la banquise, de faire dégeler tout le permafrost, de faire effondrer une partie du Groenland, une partie de l'Antarctique, on commence à voir que ces points de bascule sont pour la plupart autour des 1,5 degrés d'augmentation de température. Et là, la fenêtre des 1,5 degrés, elle est vraiment en train de se fermer. On se rend compte que quand la nature, elle est déstabilisée, mais on est mort, quoi. On est mort. Et je suis désolée de parler de façon aussi violente, mais je pense qu'on a complètement oublié que cette nature, voilà, quand elle s'énerve, mais en fait, on n'est pas du tout prêt à ce qui est en train de se passer.
Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme, le rendez-vous bimensuel qui interviewe des chercheurs et chercheuses pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés, ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants, et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur les interactions entre glaciers, climat et société. En effet, les glaciers sont un des piliers centraux pour la régulation du climat. Mais à cause du réchauffement climatique, nous sommes en train de les perdre à vitesse grand V. Au-delà de perdre ces magnifiques paysages, leur disparition signe un enclenchement de points de bascule qui vont radicalement bouleverser nos sociétés. Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir de parler avec Heidi Sevestre. Heidi est docteur en glaciologie, membre international du Club des explorateurs et a reçu la médaille Shackleton pour la protection des régions polaires. Elle est l'autrice du livre « Sentinelle du climat » qui vulgarise très, très bien les thématiques que nous allons couvrir aujourd'hui. Dans cette discussion, nous détaillerons les constituants de la cryosphère, leurs services écosystémiques et comment ils sont dérégulés par le changement climatique et comment nos sociétés seront affectées par ces changements. Bonjour Heidi.
Bonjour Aristide. Merci beaucoup.
On a beaucoup à couvrir. Les glaciers, j'ai découvert que c'est pas juste la petite neige sur les montagnes. Il y a plein de choses à apprendre. C'est un sujet vital. Pourquoi ? Parce qu'il y a des impacts réciproques entre glaciers et société. Donc d'un côté, nous, on est impacté par les glaciers et nous, on impacte les glaciers. Tu es une scientifique. Il y a beaucoup de scientifiques dans le monde. Mais toi, en même temps, tu es exploratrice. Tu fais des voyages de fou. Tu as des photos comme si c'était des unes de National Geographic.
Donc, c'est gentil.
On n'a pas tous le même rôle de scientifique. C'est quoi la glaciologie et qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien en tant que glaciologue ?
Ah, écoute, merci en tout cas pour tout ça. Non, la glaciologie, c'est assez merveilleux, quoi. C'est déjà de passer beaucoup de temps voilà, auprès de ces géants de glace. C'est de s'émerveiller de paysages où finalement très peu de personnes qu'ont l'occasion de voir, c'est de pouvoir récolter des données sur le terrain et c'est, comme tu l'as dit, parfois de voyager aussi aux quatre coins de la planète pour mieux comprendre ce que ces glaces essayent de nous dire. Et c'est pour ça que c'est assez difficile, je trouve, de résumer ce que c'est exactement que le quotidien d'un ou une glaciologue. Mais je pense que le quotidien, il est vraiment divisé en deux parties principales. Tu as la partie glaciologue sur Instagram, c'est-à-dire de partir en expédition. Tu vois, c'est vraiment pour moi, la raison pour laquelle je suis devenue glaciologue, c'est pour pouvoir aller au cœur du terrain, avoir les deux pieds sur les glaciers, vraiment comprendre ce qui s'y passe. Et là, je dis souvent que d'être glaciologue, c'est être un peu le docteur des glaciers. Donc ces glaciers, voilà, c'est en quelque sorte nos patients. Tu vois, comme toi et moi, quand on va voir le médecin, bah, le médecin, il nous prend la température, il essaie de savoir si on a pris du poids, si on a perdu du poids, si on est en bonne ou en mauvaise santé. Et ben, nous, on fait pareil avec les glaciers. Sauf qu'ils parlent pas beaucoup, donc c'est vraiment à nous, tu vois, de les faire parler à coup de technologies, d'instruments qu'on va utiliser. Et quand on part sur le terrain, voilà, on part avec des équipes souvent internationales, on part sur des périodes assez longues. Plus on va loin, plus on part longtemps. Et parfois, voilà, on en parlera, je suis sûre, mais parfois au risque de notre vie aussi, hein, pour récolter ces données précieuses. Et l'autre partie de la vie de glaciologue, bah c'est tout le reste, qui est aussi, pour moi, je trouve particulièrement excitant. Donc, c'est de traiter des données, comme tu le sais très bien. C'est une chose de les récolter, c'est autre chose de les traiter. C'est de publier des articles scientifiques, c'est de monter des projets, chercher du financement et aussi et donner des cours, qui est quelque chose que j'aime encore énormément faire. Et aujourd'hui, c'est difficile d'être scientifique sans avoir toute une partie aussi de vulgarisation, de sensibilisation, d'éducation en fait. Et je pense qu'on le fait tous aujourd'hui à nos échelles, à des échelles différentes. Mais c'est très difficile aujourd'hui, je pense, d'être glaciologue, de voir ce qui se passe sans avoir envie de le hurler en fait à la Terre entière.
Quand on lit sur Wikipédia, c'est quoi la glaciologie ? C'est l'étude de la cryosphère. Évidemment, il y a des mots de jargon un peu. Il va y avoir les glaciers, il va y avoir le pergélisol ou le permafrost, il va y avoir les banquises, il y a la cryosphère. On va peut-être dire un peu ces différents mots. Comme ça, tout le monde suit.
Carrément, ouais.
Et après, on va utiliser ces définitions pour comprendre les phénomènes. Comment ça bouge, pourquoi ça bouge et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui.
Ouais.
Donc, c'est quoi la cryosphère ?
Ouais, la cryosphère, écoute, c'est marrant. C'est un mot qui est rentré dans le dictionnaire anglais il y a un ou deux ans, quoi.
C'est quand même un mot
qui est très peu connu. Et ça ne me surprend pas que personne n'ait entendu ce mot avant. En fait, la cryosphère, donc cryo, bah voilà, cryo, c'est tout ce qui est évidemment gelé, glacé sur Terre. Donc ça rassemble, voilà, que ce soit la glace de rivière, la glace de lac, le permafrost, qui est ce sol gelé sur plus de 2 années consécutives, qui occupe à peu près un quart des terres de l'hémisphère nord, notamment. Ça rassemble les glaciers de montagne, c'est comme les glaciers des Alpes, les glaciers des Pyrénées. Ça rassemble aussi ce qu'on appelle la banquise. Donc la banquise, c'est cette croûte de glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacial arctique, pratiquement permanente autour de l'Antarctique. Ça rassemble aussi ces grandes calottes glaciaires, ces grandes calottes polaires. On a 2 calottes polaires sur Terre. On a le Groenland au nord et l'Antarctique au sud. Et j'espère rien avoir oublié. Bah, la neige, évidemment, la neige fait pleinement partie, voilà, de cette cryosphère. Et donc, nous, notre travail, c'est vraiment d'étudier, tout ou une partie, du moins, de ces écosystèmes-là. Moi, je suis très, très spécialisée sur les glaciers de montagne et aussi une partie de nos calottes polaires. Il y en aura d'autres qui sont beaucoup plus spécialisées, permafrost, banquise, etc., etc. Donc, nous, oui, on passe beaucoup de temps dans le froid, quoi.
Oui, il faut aimer le froid, quoi. Et là-dedans, si je comprends bien, il y a également des phénomènes qui se passent. Il y a les moraines, il y a les crevasses, enfin, il y a plein de... Ça bouge, quoi. C'est pas finalement juste une pierre, quoi. C'est vivant comme matériau, en fait.
Mais carrément, c'était Robert Vivian, qui était un des plus grands glaciologues français, qui est disparu il y a quelques années maintenant, qui disait « les glaciers sont vivants ». Et je trouve ça trop beau, quoi, parce que oui, les glaciers sont vivants. En fait, un glacier, c'est jamais statique, comme tu l'as très bien dit. Un glacier, voilà, quand on regarde une montagne qui est recouverte de glaciers, on a l'impression qu'il se passe rien. On a l'impression que ça ne bouge pas. Alors qu'en fait, tous les glaciers sont forcés de bouger, déjà sous leur propre poids. Parce que la glace, c'est un matériau un peu visqueux. Donc même si c'est quelques centimètres par an, ou quelques mètres par an, la glace, elle bouge. Et donc, on dit toujours cette expression anglaise, tu sais, « at glacial pace », pour dire « ah, c'est tellement lent, c'est la mort ». Mais en fait,
aujourd'hui,
c'est pas tout à fait vrai, voilà, parce qu'il y a des glaciers qui peuvent parfois se mettre à accélérer, voilà, dans les glaciers que j'étudie. Donc, on se rend compte qu'en fait, quand on regarde juste les glaciers, ce qu'on appelle les glaciers de montagne, voilà, ce qu'on connaît le mieux, je pense, en France, hein, et ben en fait, on a toute une panoplie de glaciers différents, qui ont des comportements différents, qui ont des tailles différentes, qui ont des températures différentes. Et donc, tout ça, ça va influencer leur comportement.
Ouais. Oui, c'est, enfin, il y a des dizaines de milliers de glaciers, si je comprends bien, dans le monde.
Il y en a 220 000, ouais. Donc, il y a de quoi faire. Ouais, il y a de quoi faire.
Donc, évidemment, chaque glacier a aussi des spécificités. On va le voir d'ici peu. Et toi, tu viens prendre le pouls de tous ces glaciers.
J'essaye. Je suis pas toute seule.
Oui, évidemment. Ça ferait un peu trop de glaciers par personne. C'est une question de béotien. Je pense que ça va quand même aider certaines personnes aussi. Les glaciers, on connaît tous le dessin animé Ice Age, l'âge des glaces.
Exactement.
Qui est un peu la fin de l'ère de Pléistocène, début d'Holocène.
Oui, oui.
Mais il y en a eu plein d'autres également par le passé. Il y en a eu 4 ou 5, quelque chose comme ça. Quand apparaissent les glaciers, pourquoi ils apparaissent ? C'est bête, mais...
C'est pas bête, ouais.
Comment ça apparaît un glacier et comment ça se passe tout ça ?
Ouais, c'est assez génial quand tu regardes qu'en Antarctique, par exemple, ça fait au moins 30 millions d'années qu'il y a de la glace en Antarctique, donc ça fait un petit bout de temps. Mais si vraiment on remonte le temps de l'histoire de notre planète, on sait qu'il y a eu des périodes où, on pense du moins, d'après ce qu'on arrive à reconstruire, où la Terre entière était recouverte de glace, ce qu'on appelle « Snowball Earth ». Et à l'inverse, il y a certainement eu des périodes où il n'y avait pas un pet de glace sur Terre, quoi. Et ça, c'est assez magique de se rendre compte de ça, à quel point les variations, voilà, on a fait vraiment le grand écart sur Terre. Quand on se rapproche des temps relativement récents, sur les quelques centaines derniers milliers d'années, on se rend compte qu'on alternait entre des périodes glaciaires, donc avec des grandes calottes. Par exemple, c'est là où on dit, tu sais, qu'il y avait la glace qui descendait pratiquement jusqu'à Lyon. Ça, on arrive à le reconstruire, hein, parce que les glaciers sont baladés avec des petits cailloux, comme ça, les cailloux, ils les ont posés au bout d'un moment, et grâce à ces cailloux, voilà, on arrive à reconstruire l'étendue passée de ces glaciers. Et il y a eu des périodes interglaciaires, donc là où, naturellement, ces calottes se rétrécissent, se raccourcissent, voire certaines disparaissent. Et donc, quand je dis ça, ce que je dis tout simplement, c'est que le climat a toujours changé. Et là, je te fais une belle jambe, je t'apprends rien. Mais oui, le climat a toujours changé. Et il y a quelque chose d'assez magique, c'est que les glaces en elles-mêmes, les carottes de glace en elles-mêmes, nous ont beaucoup appris sur les changements climatiques passés. Et là, je voudrais te parler de Claude Lorius, parce qu'on peut pas parler de ça sans parler de Claude Lorius. Claude Lorius, tu sais, c'est le Yoda, je pense, de la glaciologie. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a révolutionné, en fait, l'histoire des glaces. L'étude des glaciers, elle est très récente, hein. Ça a quelques siècles tout au plus. Ça a vraiment commencé ici dans les Alpes, entre la France et la Suisse. Et Claude Lorius, lui, quand il avait 25 ans, c'était dans les années 1960, des fins des années 1960, on lui propose de partir en Antarctique. Et à l'époque, partir en Antarctique, c'est pas du tout comme aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu pars, t'as une base, c'est confortable, t'as Starlink, t'as une machine qui fait de la glace, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi, quoi. C'est très confortable aujourd'hui. Lui, quand on lui demande de partir en Antarctique, c'était dans la base Charcot, ce qui était une sorte de cagibi creusé dans la glace à l'est de l'Antarctique, quoi, vraiment des conditions dantesques. Et en fait, Claude, ce qu'on lui avait demandé de faire, c'est d'aller étudier la glace en elle-même de l'Antarctique. Et en étudiant juste, donc c'est bête ce que je te dis, hein, mais la glace de l'Antarctique, donc l'eau et les isotopes d'eau, il développe une technique qui, grâce aux isotopes d'eau, aux molécules d'eau, hein, va nous permettre de reconstruire les changements de température passés au moment où, et ça explique comment les glaces se forment, au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Parce qu'en fait, tous les glaciers sur Terre sont formés de la même façon. Ils sont formés tout simplement par de la neige qui tombe à un endroit et qui ne disparaît pas complètement pendant l'été et qui continue à s'accumuler pendant l'hiver et l'année suivante et l'année suivante et l'année suivante. Et au bout d'un moment, cette neige devient tellement épaisse et tellement lourde, tellement dense, que la neige la plus ancienne, elle se fait écrabouillée et en se faisant compacter, elle se transforme en glace. Et donc Claude, en regardant cette glace, il se dit, mais j'ai une petite idée, comment essayer de reconstruire la température au moment où la neige tombait sur l'Antarctique. Donc c'est assez magique, il commence à dessiner en fait l'histoire de notre planète, l'histoire de changement climatique. Mais il a un autre, lors de son deuxième hivernage, il a une intuition absolument géniale. Et là, c'est la fameuse histoire du glaçon dans son verre de whisky. Et en fait, il met des petits morceaux de glace, des petits morceaux d'une carotte de glace qu'ils avaient récoltée à des centaines de mètres de profondeur. Et ces morceaux de carotte, bam, il les met dans son verre de whisky. Et en fait, il se rend compte que dans cette glace, il y a plein de petites bulles d'air. Et ces petites bulles d'air, pouf, elles remontent à la surface de son verre de whisky. Et il se dit, c'est marrant parce qu'on me demande d'analyser donc ces molécules d'eau, cette glace. Mais en fait, il y a de l'air là-dedans et on m'a jamais parlé de ces bulles d'air. Et donc, il se pose la question, mais d'où elles viennent, ces petites bulles d'air? Et en se posant cette question, il comprend que quand la neige, en fait, elle tombe sur l'Antarctique, avec les flocons, avec leurs petites branches, ils arrivent à coincer des morceaux d'air et que finalement, ces bulles d'air dans la glace, c'est le seul échantillon d'atmosphère passée que l'on a sur Terre, quoi. Et c'est là où il a cette idée qui est absolument formidable. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe si on analyse ces bulles d'air? Et donc, il s'est décidé à analyser le CO2, le méthane, le dioxyde d'azote, voilà, les gaz à effet de serre que l'on connaît très bien aujourd'hui. Et grâce à ça, il a participé à des programmes de forage qui ont permis d'aller très très loin dans le temps. Donc, plus tu creuses en profondeur, plus tu remontes le temps. Et grâce à lui, on a eu des carottes de glace, quoi, une des dernières récoltées, qui nous permettait de remonter 800 000 ans sur l'histoire de notre planète. Et ce que tu vois sur cette analyse de cette carotte de glace, donc continue, hein, d'aujourd'hui jusqu'à 800 000 ans en arrière, tu vois que les concentrations de gaz à effet de serre ont toujours changé. Et tu vois des moments où le CO2 était haut, Donc quand il y avait beaucoup de CO2, beaucoup de gaz à effet de serre, il faisait relativement chaud. Donc il y avait, c'était ces périodes interglaciaires, il n'y avait pas beaucoup de glace sur Terre. Et quand le CO2 diminuait naturellement, eh ben, c'est là où tout d'un coup, voilà, les glaces reprenaient du poil de la bête, il faisait froid, il y avait beaucoup de neige sur Terre, donc les glaciers regrossissaient. Et ça, aujourd'hui, on arrive à l'expliquer, en fait, ces changements climatiques passés. On les explique par des cycles naturels. Alors, pour faire très simple, on les explique, on recoupe ça sous le nom des cycles de Milankovitch. Donc, c'est en grande partie lié à l'interaction entre les cycles terrestres et le soleil, par exemple. Donc, tu vois, la Terre, elle tourne autour du soleil, voilà, tu le sais très bien. Et parfois, la forme de cette orbite va changer. Parfois, la Terre, elle se rapproche un peu du soleil. Parfois, elle s'éloigne un petit peu. Donc, tout ça, ça va influencer la quantité d'énergie que l'on reçoit sur Terre et ça va influencer tout un tas de cycles sur Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même avec un angle. Cet angle aussi peut changer. Elle tourne sur elle-même donc, comme une toupie. Et parfois, cette forme de toupie va s'élargir un petit peu ou se resserrer. Et tout ça, en fait, ça va créer des bouleversements sur Terre. Ça va influencer notamment les cycles du carbone, le cycle du carbone. Et donc, ça va permettre de dicter, en quelque sorte, les âges de glace et les périodes interglaciaires. Donc, c'est une longue explication, mais c'est important de comprendre qu'on est tout à fait conscient que le climat sur Terre a toujours changé, qu'il y a eu des périodes qui devaient être encore meilleures pour les glaciologues qu'aujourd'hui. Mais ce qui est fou, et je vais...
Mais pas pour les humains, certainement.
Ouais, pas pour les humains. Mais je vais terminer là-dessus. Ce qui est fou, c'est que depuis que Homo sapiens sapiens existe, il y a toujours eu de la glace sur Terre. Donc ça, c'est important et on y reviendra parce que cette glace, elle nous permet de stabiliser tout un tas de choses. Mais aussi, on se rend compte que quand on regarde là où on en est aujourd'hui, ben, on a complètement quitté en fait cette alternance, je ne sais pas comment tu dis, entre les périodes interglaciaires et les périodes glaciaires. Est-ce qu'on les a quittées pour toujours? On ne sait pas. Mais ce qui est très sûr, c'est que ça fait à peu près 3 millions d'années maintenant qu'on n'a pas eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Et il y a les toutes dernières données qui nous montrent que ça fait peut-être 16 millions d'années en fait qu'on n'a pas eu autant de CO2, de CO2 autant concentré dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, ces cycles naturels, ils continuent. Mais ce qu'on a posé par-dessus, bah, c'est l'impact humain qui est absolument gigantesque et qui est en train de vraiment de tout bouleverser.
En fait, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que certes, on a connu des glaciers depuis toute notre existence, disons, mais on est arrivé durant l'Holocène, environ il y a 12 000 années, sur cette période stable. Enfin, ça n'a pas trop bougé. Et ça nous a permis de faire l'agriculture, ça nous a permis de nous sédentariser. Enfin, ça nous a permis plein de choses aussi, quoi. Donc, on est vraiment dans une fenêtre de tir tellement petite où on a eu des glaciers, mais aussi avec un climat très stable, très doux, enfin, où on a pu se développer, quoi. Donc, c'est assez dingue de se dire comment il y a cette équation entre glaciers, on va donner un peu les différents services écosystémiques qu'ils rendent, mais également climat stable, doux, et qui nous permet de faire plein d'autres choses, quoi.
Ouais, c'est ça. Je trouve ça très beau ce que tu viens de dire. C'est que, voilà, entre l'humain et les glaciers, même combat, quoi. On est directement connectés. Et c'est vrai qu'ils nous ont rendu tout un tas de services et ils continuent à le faire. Mais le problème, c'est que si on les perd, voilà, les conséquences sur les humains vont être absolument catastrophiques. Ouais.
Bah, passons alors à ces fameux services. Bon, évidemment, ce n'est pas de manière utilitariste. Les glaciers nous servent pour quelque chose. Non, évidemment, les glaciers sont là. Et on bénéficie de plein de choses du fait que les glaciers soient là. Quels sont certains de ces services? Enfin, il y en a énormément, mais le top 3, le top 5, enfin, c'est quoi?
On peut peut-être commencer avec ce qu'on a chez nous, tout simplement, avec les glaciers que l'on a dans les Alpes et dans les Pyrénées. On décrit souvent ces glaciers comme parmi les meilleurs châteaux d'eau que l'on a sur Terre. Après tout, c'est de l'eau douce, quoi. Tu sais, c'est de la neige qui s'est transformée en glace. Donc, quand ces glaciers fondent un petit peu ou beaucoup pendant l'été, c'est de l'eau douce qui va tomber dans nos écosystèmes, dans nos rivières, dans nos fleuves. Et donc, je trouve ça assez magique de se dire que les glaciers, t'imagines, c'est des machines qui, chaque année, gratuitement, en fait, vont nous donner de l'eau douce, quoi. Et cette eau douce, bah, c'est vraiment un peu le nerf de la guerre. On va l'utiliser pour tout un tas de trucs. On va l'utiliser en partie pour produire de l'hydroélectricité. Tu vois, si tu regardes dans le massif du Mont Blanc, on a au moins 3 glaciers côté français. On va récolter de l'eau de fonte par-dessous, hein, sous les glaciers. On a creusé des galeries dans la montagne pour aller chercher cette eau. Il y a la mer de glace, il y a le glacier d'Argentière, le glacier du Tour. Et c'est des glaciers dont on va turbiner l'eau pour produire de l'énergie. Et ces 3 glaciers, j'avais demandé au glaciologue Luc Moreau, donc qui est le méga boss, voilà, des glaciers de la vallée de Chamonix, et un très très bon communicant. Et il m'avait expliqué que ça fournit fournit assez d'électricité pour l'équivalent de 250 000 ménages pendant un an. Donc, c'est quand même pas négligeable, c'est chouette. C'est de l'eau ensuite qui va aller, dans les écosystèmes, bien sûr, qui ont besoin de cette eau pendant l'été, c'est de l'eau qui va aller dans nos rivières, dans nos fleuves. Un chiffre que je donne très souvent, c'est quand je parle du Rhône. Le Rhône, c'est le plus grand fleuve français en termes de débit. Donc, on est quand même directement concerné par tout ce qui se passe sur le Rhône. Le Rhône, il prend sa source côté Suisse, le glacier du Rhône. Et ensuite, voilà, il y a plein d'autres glaciers qui contribuent à ça. Et il n'y a pas que les glaciers, il y a évidemment la pluie, etc. Mais on avait calculé, il y avait des collègues à moi qui avaient calculé en 2003 que pendant la canicule, à un endroit précis sur le Rhône, il avait été estimé que 40% des eaux du Rhône venaient des glaciers. Alors, ça s'expliquait parce qu'il n'y avait pas d'autres sources d'eau à ce moment-là, parce que les glaciers fondaient énormément, on était en pleine canicule. Donc, c'était vraiment un moment exceptionnel. Le reste de l'année, on n'est pas du tout à cette hauteur-là de pourcentage d'eau du Rhône. Mais c'était intéressant de voir que, voilà, dans les moments critiques, quand il n'y a pas d'autres sources d'eau, pendant l'été, on était bien content d'avoir ces glaciers. Et le long du Rhône, qu'est-ce qu'on a? On a des sites industriels extrêmement importants. On a tout le bassin Rhône-Méditerranée, c'est un très très grand bassin agricole en France. Je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième en termes de volume qui est créé par l'agriculture, qui est poussé, qui est, je ne sais pas comment on dit, construit par l'agriculture. Et aussi, l'exemple, voilà, mais ça c'est vraiment plus anecdotique, on a aussi des centrales nucléaires. Et bien sûr, ces centrales nucléaires ont besoin d'un certain débit, d'une certaine température de l'eau du Rhône pour continuer à fonctionner normalement. Et on sait très bien qu'on a aussi énormément besoin d'énergie pendant l'été. On risque d'en avoir besoin de plus en plus pour refroidir nos habitations et nos sites industriels. Donc voilà pour ça, le fait que ce sont parmi les meilleurs châteaux d'eau sur Terre, ces glaciers, c'est important. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais ce chiffre, moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est que c'est à peu près 2 milliards de personnes qui ont besoin de l'eau des glaciers. Quand tu penses à l'Himalaya, tout c'est clair. Je pense qu'au moins c'est crucial, voilà, les glaciers de l'Himalaya.
La Chine, l'Inde.
La Chine, l'Inde, exactement. C'est les plus grandes cultures de riz, les plus grandes cultures de coton qui sont directement connectées à l'eau des glaciers. Tu vois, j'avais une de mes super potes là, qui est glaciologue et qui est népalaise à la base, qui maintenant est aux États-Unis. Et je lui ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser aux glaciers de l'Himalaya quand on habite en France? Elle m'avait dit, tu manges du riz? Je dis, oui. Elle me dit, tes vêtements, ils ont du coton? Je dis, comme tout le monde, oui. Elle me dit, voilà. Rien que pour ces deux raisons, t'es directement connecté au glacier de l'Himalaya. Et donc, voilà, 2 milliards de personnes ont besoin de l'eau de ces glaciers. Donc ça, c'est un des plus grands services écosystémiques rendus par les glaciers de montagne.
Ça, c'est top 1. Top 2, il y a quand même, ou top 3 aussi, si je comprends bien, c'est la régulation du climat, la régulation que ce soit dans l'eau, mais aussi dans l'air.
Exactement, ouais. C'est vrai que c'est aussi bête que ça, mais quand on regarde des glaciers, de la neige ou de la banquise, c'est des surfaces très blanches. C'est des surfaces, quand ces glaces sont en bonne santé, c'est des surfaces voilà, qui sont très claires. Et ces surfaces, donc, elles agissent comme des miroirs. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles les montagnes se réchauffent très vite, parce que les montagnes ont de moins en moins de neige, ont de moins en moins de glaciers. À la place de ces surfaces qui sont censées être blanches, à la place, tu as des roches qui, elles, sont très sombres, ou de la végétation qui est beaucoup plus sombre, donc qui absorbe le rayonnement solaire. L'exemple le plus criant, je pense, c'est, par rapport à cette couleur, par rapport à cet effet miroir, c'est vraiment la banquise dans l'Arctique. Donc la banquise, j'y reviens, mais c'est cette croûte de glace qui est présente de façon permanente sur l'océan glacial arctique. Et elle se forme tout simplement parce qu'il fait tellement froid dans l'Arctique toute l'année, et surtout pendant l'hiver, que la surface de l'océan gèle. Et cette banquise, au cœur de l'hiver, elle a une surface gigantesque. Quoi. Je pense qu'on ne s'en rend vraiment pas compte.
Non,
c'est l'équivalent des États-Unis et de la Russie combinés. En termes de surface, donc c'est énorme. Et cette surface gigantesque, elle est particulièrement importante toute l'année, mais surtout pendant l'été, parce que pendant l'été, il fait jour 24 heures sur 24 dans l'Arctique. Et cette banquise, elle est très blanche, elle est très très claire. Donc elle renvoie une grande partie de rayonnement solaire dans l'espace. Elle climatise en quelque sorte l'Arctique. Hein, on dit souvent que c'est le t-shirt blanc de l'Arctique. Et ça, c'est une très belle image. Et à la place de cette banquise, le problème, c'est que tu as un océan, et lui, comme les roches ou la végétation dans nos montagnes, l'océan, il est très foncé. Lui, il est très fort pour absorber le rayonnement solaire. Et là, on en parlera, mais ça peut créer des cercles vicieux où ces glaces disparaissent à cause du changement climatique. Elles laissent place à des écosystèmes qui vont emmagasiner beaucoup plus de chaleur. En emmagasinant plus de chaleur, ils vont encore plus réchauffer ces régions et donc encore plus faire fondre de la glace. Donc, on dit souvent que la fonte de la glace accélère encore plus la fonte de la glace.
Et ça, c'est le coefficient albédo qui change, entre
c'est
guillemets.
C'est ça. C'est la notion d'albédo, ouais, ouais, tout à fait.
Donc ça, c'est dans l'eau, ou en tout cas, ça régule un peu la température, mais il y a aussi, les glaciers sont aussi responsables pour les flux d'air.
Ouais.
En tout cas, dans l'hémisphère nord. Je ne sais pas comment ça se passe dans l'hémisphère.
Exactement, ouais. En fait, ça, c'est encore une fois très fortement lié à cette banquise, voilà, dans l'Arctique. Ça, c'est fascinant. Alors, je mets un petit astérisque par rapport à ça, parce que c'est vraiment, tu sais comment ça se passe en science. c'est vraiment un sujet qui est encore un petit peu débattu, beaucoup moins qu'il y a quelques années, voire quelques mois. Mais en fait, on se rend compte que... Alors, pour vraiment simplifier à mort, et les météorologues qui m'écoutent vont sûrement me déchirer, mais alors pour simplifier le plus possible, c'est que tant que l'Arctique, il est bien froid, bien gelé, bien glacé, donc il y a beaucoup de banquises, il y a beaucoup de glaciers et tout, eh ben les vents entre chez nous, par exemple en France, et l'Arctique, vont vraiment envoyer du pâté. Donc on a ce qu'on appelle le Polar Jet Stream, c'est des vents qui sont à haute altitude, qui vont en quelque sorte s'enrouler comme un ruban autour de la planète entre nous et l'Arctique. Donc tant qu'on a des écarts de température très forts entre chez nous et l'Arctique, donc il fait chaud chez nous, il fait très froid dans l'Arctique, ces vents, ils pulsent, ça permet de garder le froid là-haut et le chaud chez nous en quelque sorte. Le problème, c'est que pour parler de ce qui se passe au niveau de l'Arctique aujourd'hui, l'Arctique, c'est une des régions qui réchauffe le plus vite sur Terre. En moyenne, l'Arctique aujourd'hui se réchauffe 3 à 4 fois plus vite que la moyenne planétaire. Donc, ce qui est terrible. Et donc, tu me vois venir, mais ces écarts de température, ils s'amenuisent quoi, considérablement. Et ce qui se passe, c'est que si ces écarts de température s'amenuisent entre chez nous et l'Arctique, eh ben, ces vents, ils pulsent un peu moins, quoi. Ces vents, ils ont vraiment moins de vigueur. Et alors, c'est connecté à plein d'autres choses aussi. Mais on est en train de remarquer, sur certaines périodes de l'année, notamment pendant l'été, on est en train de remarquer que... On m'a donné cette image, il n'y a pas très longtemps, qui est très belle. Un peu comme une rivière qui ralentit. Une rivière qui ralentit, elle commence à faire des méandres. Et c'est exactement la même chose au niveau de ces vents, de ces polar jet streams. Il y a certaines périodes de l'année où ces vents... commence à faire, voilà, un peu comme s'il dessinait les pétales d'une fleur, tu vois, autour de l'Arctique. Et donc, ça veut dire que chez nous, en France, on peut se prendre des vagues de froid, en fait, qui viennent très, très bas dans le sud, tu vois, dans le sud de l'hémisphère nord. Donc, on a des grosses vagues de froid, les gels précoces, les gels tardifs pour l'agriculture, ce qui est terrible. Mais on a de plus en plus aussi l'inverse, donc des grandes vagues de chaleur qui remontent.
De plus en plus haut, quoi.
Voilà, parfois jusqu'au cœur de l'Arctique, hein.
Oui.
Donc vraiment des canicules monstrueuses, et puis quand tout est
des 20 degrés au Svalbard ou quelque chose comme ça.
Des 20 degrés au Svalbard, voilà, qui est à 1000 km du pôle Nord, c'est pas normal. Et donc tout ça, c'est lié au fait, en grande partie, au fait que cette banquise, on est en train de la perdre, et donc que les vents, tu sais, tout est lié dans le climat. Dès que tu dérègles un truc quelque part, c'est tout le reste qui réagit. Et donc plus ces vents sont perturbés, plus nous, en fait, chez nous en France, on va subir des événements météorologiques extrêmes. Donc c'est... Allez, des vagues de froid, des vagues de froid vraiment anormales, des vagues de chaleur anormales, des périodes très sèches, voire des périodes très très humides. Tu sais, quand on se prend en 24 heures l'équivalent d'un an de précipitation dans certaines régions d'Europe, c'est lié en grande partie à ça. Donc oui, la banquise, tant qu'elle est là, elle nous rend plein de services parce qu'elle stabilise tout ça. Mais là, on est vraiment en train de prendre une direction un peu apocalyptique pour la banquise de l'Arctique. Plus on brûle l'énergie fossile, plus cette banquise, elle disparaît. Et là, il y a quelques études scientifiques qui ont été publiées ces derniers mois. Alors, c'est quelques études. Il faudra encore beaucoup plus de travaux derrière, mais qui nous montreraient, il y en a une notamment, qui explique que dès le début des années 2030, donc ça arrive très vite, on pourrait avoir la fin de l'été dans l'Arctique sans banquise. Donc, le mois de septembre, c'est là où on atteint très naturellement un minimum de superficie de banquise. Et c'est là où la banquise est la plus fragile. Et donc, peut-être, et j'espère que cette étude se trompe, hein, mais on dirait pas. Donc, dès le début des années 2030, on pourrait avoir des mois de septembre sans banquise dans l'Arctique. Ouais. Et donc, avec des conséquences chez nous assez, assez terribles sur notre sécurité alimentaire, notre sécurité énergétique et sécurité nationale tout court, quoi.
Ouais, c'est quand même... Il faut s'accrocher, quoi. C'est pas des minuscules changements par-ci, par-là. C'est pas... Enfin, on va en venir dans un instant sur la notion de point de bascule. Je pense que c'est un truc essentiel parce qu'on ne réalise pas encore tout ça. Donc, on a parlé, via l'utilisation des combustibles fossiles, il y a de plus en plus de CO2. Ça se réchauffe, ça fait fondre les glaciers. il y a le ralentissement de la pompe d'eau qui circule, de l'eau chaude dans les océans.
Voilà, ce qui se passe dans l'air, malheureusement, on voit aussi beaucoup de perturbations au niveau de la circulation océanique. Et la circulation océanique, pour faire très court, là aussi les océanographes, bouchez-vous les oreilles parce que je vais simplifier. Mais pour que ça fonctionne bien, bon, y a plein de choses dans l'océan qui est liée à la rotation de la Terre notamment, voilà, toutes ces forces-là. Mais aussi, plus on rajoute de l'eau douce dans les océans, plus c'est dommageable, quoi, plus ça affecte la circulation océanique. Et là, malheureusement, voilà, on a deux calottes polaires gigantesques. On a le Groenland et l'Antarctique, avec tous les glaciers qu'on a cités, les 220 000 glaciers qui balancent des quantités d'eau douce immenses dans les océans. Et donc, quand tu balances beaucoup d'eau douce dans les océans, ça affecte les rouages de cette circulation océanique. Et on est en train de remarquer en Antarctique que c'est déjà en train de ralentir et qu'on est tous connectés à ces vents et on est tous connectés à cette circulation océanique. On sait qu'on parle beaucoup du Gulf Stream chez nous. S'il y a une perturbation, en tout cas des courants océaniques autour de nos régions, on risque d'avoir, oui, un climat qui changerait de façon assez catégorique, ouais.
Et de manière imprévisible, au fait, c'est aussi ça qui est assez surprenant, quoi. C'est pas juste rapidement, c'est juste on ne sait plus trop comment.
C'est assez compliqué, ouais, cette histoire de circulation océanique. Alors c'est très loin de ma zone de confort, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est vraiment le réchauffement qui dame le pion à tout ça. Mais il y a quelques études qui sembleraient montrer que si on a une perturbation de la circulation océanique près de chez nous, donc dans l'Atlantique et l'Atlantique Nord, on pourrait avoir un refroidissement de notre côté de l'hémisphère nord. Et aussi, je crois que c'est un assèchement, donc peut-être que ça deviendra un tout petit peu plus sec dans nos régions.
On a vu comment ça fonctionnait, à quoi ça sert les glaciers, ou comment aujourd'hui ils sont interconnectés avec l'atmosphère, avec l'hydrosphère, et d'autres éléments. Il y a évidemment, c'est un peu l'éléphant dans la pièce qu'on n'a pas encore parlé, la fonte des glaciers, c'est aussi la hausse du niveau des mers.
Complètement.
Évidemment, les deux calottes ou les deux grosses masses de glace vont amener de différents niveaux d'élévation. Le Groenland, c'est quoi? C'est moins d'une dizaine de mètres. Et puis l'Antarctique, c'est cinquantaine de mètres, c'est ça?
Ouais. Or, tu dis ça comme si c'était petite dizaine de mètres. Non, ouais, les chiffres sont complètement justes. Ouais. Le Groenland, c'est 6 à 7 mètres. Donc, je m'explique, ouais. Si toute la glace du Groenland disparaissait, le Groenland, ça fait à peu près 3-4 fois la taille de la France. C'est une grosse partie du Groenland qui est recouverte de glace. Il y a de la glace jusqu'à 3 km d'épaisseur par endroit, quoi. Il y a beaucoup de glace au Groenland. Et là, le Groenland, c'est vraiment, le driver, je sais pas comment tu dis en français.
Le moteur.
Voilà, moteur. Le moteur régional qui contribue le plus à l'élévation du niveau des mers. Parce que les océans plus réchauffent, plus ils prennent de place. Mais nous, en plus, avec ces glaciers balancent donc de la glace continentale, de la glace qui est sur la Terre, ils la balancent dans l'océan. Et donc ça aussi, ça contribue à l'élévation du niveau des mers. Donc si le Groenland disparaissait, d'un coup, d'un seul, voilà, c'est 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Et si, pareil, si l'Antarctique disparaissait du jour au lendemain, l'Antarctique, c'est quand même 25 fois la taille de la France, hein. C'est de la glace jusqu'à 4 km d'épaisseur, donc c'est énorme. C'est 58 mètres d'élévation du niveau des mers. Donc c'est vraiment, vraiment majeur. Et moi, je dis souvent que oui, on est tous, où que l'on habite, on va être concerné par ça, quoi. Là, on est en plein dans des débats sur l'immigration. On ne peut pas, voilà, on ne peut pas, pour ne pas rentrer trop dans l'actualité, mais on ne peut pas parler d'immigration sans comprendre que dans les années à venir, dans les décennies à venir, mais vraiment dans les années, je pense, c'est des dizaines de millions, voire des centaines de millions de personnes qui vont se déplacer. Et que la coopération entre les peuples, mais elle va être vitale. Mais aussi chez nous. Je pense que quand on prend ces décisions chez nous en ignorant un peu, on a l'impression que le changement climatique ne nous touche pas trop, mais l'élévation du niveau des mers, c'est pas que le Bangladesh et les Pays-Bas, hein. C'est toute la côte aquitaine, tu vois, La Rochelle, l'île de Ré. On me dit toujours qu'il faut que je parle de l'île de Ré, parce que visiblement, ça touche beaucoup en France. C'est toute la partie, bah, évidemment, Camargue, Arles. Ouais, le nord de la France aussi est très, très touché par ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fera, quoi, quand on aura des terres agricoles qui seront contaminées par l'eau salée? Qu'est-ce qu'on fera quand, voilà, des habitations, des autoroutes seront bouffées par l'océan? Et là, aujourd'hui, alors, ce que je veux dire est assez flippant, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on va avoir au moins un mètre d'élévation du niveau des mers. Après, c'est une question de temps. Plus on continue à brûler d'énergie fossile, plus ça arrivera vite. Vraiment, pour l'instant, les pires des scénarios nous montrent qu'on pourrait avoir, alors là, grosse prudence, qu'on pourrait avoir 1 mètre dès les années 2070. Donc dans 50 ans, t'imagines, on peut avoir 1 mètre d'élévation du niveau des mers. Avec évidemment...
Partout pareil. Non, pas partout pareil,
voilà,
géographiquement.
Tu sais comment ça, se passe. Voilà. Ouais. Suivant les températures de l'océan, suivant les vents, les courants, ça peut pas mal changer. Quoi, pas mal changer? Ça changera pas de 3-4 ouais. mètres, mais ça changera un petit peu. On peut aussi avoir 3 mètres d'élévation du niveau des mers si on reste sur notre trajectoire actuelle. Et notre trajectoire actuelle, heureusement, est en train de changer. Mais si on reste sur la trajectoire actuelle, on peut avoir 3 mètres d'ici le début des années 2100. Donc, ça arrive très vite. Hein. Et puis ensuite, voilà, c'est juste une question de notre volonté, jusqu'où on veut que ça aille, quoi.
Quand on parle des 6 à 7 mètres ou d'une dizaine de mètres du Groenland et des 58 mètres d'élévation, ça serait dans quelle perspective si on ne fait rien ?
Ouais, ça peut arriver. Alors là, on parle vraiment de millénaires plutôt hein, que de siècles. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que nous, pour comprendre comment est-ce qu'on essaie de projeter voilà l'élévation du niveau des mers, c'est on peut s'imaginer assez compliqué. En fait, il faut qu'on regarde ce qui s'est passé dans le passé. Non seulement on regarde les petites carottes de glace qui sont très utiles, mais on regarde beaucoup aussi les carottes de sédiments. On regarde aussi les littoraux de notre planète. Et aujourd'hui, on arrive à reconstruire relativement bien comment le Groenland et comment l'Antarctique avaient réagi à plus 1 degré d'augmentation de température, à plus 2 degrés, à plus 3 degrés dans le passé. C'est arrivé dans le passé. C'est arrivé il y a des centaines de milliers d'années. Mais aujourd'hui, on arrive à comprendre qu'en fait, que le Groenland, comme l'Antarctique, peuvent avoir des réactions très rapides, vraiment abruptes. On parle de réactions abruptes au changement climatique. On sait que voilà, pendant le dernier âge de glace, donc le petit écureuil cherchait ses noisettes voilà, sur les carottes de glace, que le niveau des mers était 120 mètres plus bas. Pourquoi le niveau des mers était si bas ? Parce qu'on a un volume d'eau fini sur Terre. Donc, si tu n'as pas moins d'eau dans les océans, l'eau, elle était ailleurs. Elle était dans les calottes glaciaires. Tu vois, ces grandes calottes, donc la glace qu'elle est jusqu'à Lyon en partie. Donc, on sait qu'évidemment, voilà, dès que ces calottes polaires réagissent au changement climatique, c'est le niveau des océans qui change. Et le problème, c'est qu'à l'époque, hein, il y a quelques centaines de milliers d'années, ça n'allait pas aussi vite qu'aujourd'hui, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, c'est ultra rapide. On sait qu'on a un décalage, que les concentrations de CO2, elles sont telles qu'on devrait avoir un niveau des océans déjà beaucoup plus élevé. Donc on sait qu'on a un décalage. Et aujourd'hui, donc, c'est en regardant dans le passé qu'on comprend mieux le présent et qu'on essaye de faire travailler nos modèles pour qu'ils nous disent, ben voilà, le Groenland tel qu'il est aujourd'hui, l'Antarctique tel qu'il est aujourd'hui, si on leur ajoute plus 3, plus 4 degrés, à quelle vitesse ils vont réagir. Donc c'est comme ça, pour vraiment simplifier à fond, qu'on essaie de prévoir ce qui va se passer. Et aussi, évidemment, il y a quelques centaines de milliers d'années, on n'était pas 8 milliards de personnes. Aujourd'hui, on est 8 milliards de personnes sur Terre. On risque d'aller vers les 10 milliards, hein, c'est les projections qui sont dans les années à venir. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, entre 0, alors si je ne me trompe pas dans mes chiffres, mais entre 0 et 1 mètre d'altitude, donc c'est très bas, hein, sur les littoraux, on a à peu près 230 millions de personnes. Après, ça reste parmi les ports les plus importants sur Terre pour l'échange de marchandises, les migrations de personnes. C'est évidemment énormément de terres agricoles. C'est aussi parmi les plus grandes mégalopoles sur Terre, là où il y a la plus forte croissance de population. Et entre 0 et 10 mètres, on se rapproche des 1 milliard de personnes. On a à peu près entre 800 millions, 900 millions de personnes. Donc tu te rends compte que oui, si on perd même une toute petite partie du Groenland, une toute petite partie de l'Antarctique, instantanément, c'est vraiment des populations gigantesques qui vont migrer. Et je ne suis pas du tout une spécialiste des migrations de population, mais j'imagine que ces populations, elles ne vont pas aller habiter dans des déserts. Hein, elles vont, si elles peuvent rester dans leur pays, c'est sûr qu'elles le feront, mais peut-être qu'elles ne le pourront pas. Et elles vont aller dans des pays qui seront accueillants, dans des pays où il y a du travail, dans des pays où on est safe, où il fait bon vivre. Et donc oui, il va vraiment falloir se serrer les coudes. Rien que par rapport à l'élévation du niveau des mers, on n'aura pas le choix, quoi. On n'aura pas le choix. Là, on pense qu'on a le choix, mais on ne l'aura pas.
Il y a également, enfin, peut-être un dernier point qu'on peut également parler, c'est les moraines, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, exactement. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette chance extraordinaire, alors j'y suis pas retournée depuis, mais d'aller au Népal, pile entre mon master et mon doctorat. Donc j'étais une jeune padawan en glaciologie, ouais, j'étais vraiment tout au bas de l'échelle, et on m'a invitée à partir, t'imagines, en expédition au Népal. À l'époque, tout ce qu'on m'a demandé de faire, c'était de compter des cailloux, et ça m'allait très bien. Moi, j'étais ravie de partir au Népal pour ça. Mais en fait, ouais, au Népal, donc, voilà, il y a énormément de glaciers, hein, des glaciers donc, qui vont jusqu'au sommet le plus haut de la planète. Et en fait, ces glaciers, donc non seulement, on vient de le dire, ils rendent tout un tas de services aux populations. Quoi, voilà, on pense à la Chine, l'Inde, le Tibet, qui ont besoin de l'eau de ces glaciers. Mais aussi, le problème, c'est que quand ces glaciers fondent, se rétrécissent, se raccourcissent, ils peuvent créer tout un tas de problèmes. Donc, c'est vraiment l'amour et la haine hein, avec les glaciers au Népal. Et il y a un truc qui est vraiment terrifiant, hein, qui est arrivé maintenant à plusieurs reprises au Népal, notamment, c'est qu'en fait, donc, un glacier, il a cette faculté de sculpter le paysage autour de lui. Donc un glacier, il faut imaginer ça un peu comme un tapis roulant. Voilà, tout ce qui lui tombe dessus, vu que le glacier il est toujours en mouvement, donc il avance, tous les cailloux qui lui tombent dessus, les avalanches qui lui tombent dessus, les alpinistes qui lui tombent dessus, voilà, tout ce qui lui tombe dessus, il va le transporter jusqu'à sa périphérie, jusqu'à sa marge. Hein, et après, un peu comme une brouette qui va lâcher ses cailloux, qui va se vider, et ben, le glacier va déposer autour de lui tout ce qui lui est tombé dessus. Et donc, c'est ce qu'on appelle une moraine, ou un cordon morainique, voilà, si on veut être technique. C'est un tas de cailloux, voilà, une moraine, il n'y a pas besoin de faire très compliqué. Et ce tas de cailloux, ben, il peut être gigantesque. Quoi, dans l'Himalaya, moi, je n'avais pas l'habitude de voir des moraines comme ça. Tu as des moraines qui font plusieurs centaines de mètres de hauteur. Et c'est un tas de cailloux, donc c'est quand même pas ultra solide. Ça peut être très grand, mais ce n'est pas si solide que ça. C'est vraiment, voilà, tu imagines la brouette voilà, qui a, pendant des décennies, des siècles, qui a déposé ces cailloux autour du glacier. Et ce qui se passe, c'est que bah dans l'Himalaya aussi, les glaciers se retirent, les glaciers se raccourcissent, donc ils vont petit à petit se déconnecter de ce... T'imagines une forme en U, en fait, autour du glacier, hein, comme un fer à cheval, en quelque sorte, voilà, qui s'est déposé autour du glacier. Le glacier se retire, mais ce fer à cheval, il reste là, ce tas de cailloux reste sur place. Alors, il se déstabilise un tout petit peu, mais il reste sur place. Mais le glacier se retire, mais il ne fait pas que se retirer. Ils font en même temps. Et donc, toute l'eau de fonte du glacier, eh ben, elle se retrouve coincée derrière ce mur, derrière ce tas de cailloux. Et le problème, c'est que ça peut former des lacs, mais énormes, quoi. Parce que quand tu as ta moraine qui fait des centaines de mètres de hauteur, je ne sais pas, 100, 150 mètres de hauteur, tu peux avoir un lac qui se forme juste derrière. Mais n'oublions pas que ce n'est pas solide. Et le problème, c'est que malheureusement, entre l'eau et la glace, l'eau liquide finit toujours par gagner. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est pareil entre l'eau et ces roches. L'eau arrive toujours à trouver un moyen de s'échapper. Le problème, c'est que lorsque le volume du lac il est très important, et ben quand l'eau trouve un moyen de s'échapper, c'est catastrophique. C'est vraiment un tsunami en fait en pleine montagne. Et donc on a vraiment des exemples de ce barrage quoi qui explose en quelque sorte à cause du volume d'eau qui était coincé derrière et des vallées entières sur des dizaines de kilomètres qui sont ratissés quoi, mais complètement aplatis par ces tsunamis. Et ces tsunamis, donc ils ont un terme technique, ça s'appelle GLOF. Donc c'est qu'on adore les acronymes en science. Donc c'est Glacial Lake Outburst Flood. Je ne sais pas comment, vidange d'un lac glaciaire, voilà, on appelle ça en français. Et donc au Népal, le problème, c'est que tu as énormément voilà, d'agriculteurs, de villages, parfois de sites touristiques, hein, qui sont très très proches de ces glaciers, très très proches de ces lacs. Je crois que c'est voilà, plusieurs millions de personnes hein, qui sont à quelques kilomètres de ces lacs. Et aujourd'hui, c'est terrifiant ce qui se passe parce que c'est très compliqué d'aller vidanger artificiellement ces lacs à très haute altitude dans des vallées ultra reculées. Et donc, on a un vrai devoir, nous les scientifiques, d'alerte, de prévention, de préparation de ces communautés, de mettre en place des systèmes d'alarme. Parce que voilà, quand tu as un lac, une vidange d'un lac glaciaire, parfois tu as, je sais pas, entre 30 secondes et une minute pour sortir de ta maison et aller te réfugier le plus haut possible, quoi. Et donc, pendant mon expédition au Népal, que j'avais rejoint voilà, toute une équipe de l'université de Aberystwyth, avec Matt Westoby, voilà, qui était le chef du projet, c'est ce qu'on est allé étudier. En fait, on est allé sur 3 sites où il y avait déjà eu des vidanges de lacs glaciaires. Et c'est quoi, t'as l'impression de marcher sur la lune quoi. Quand t'es dans ces vallées qui ont reçu ce tsunami, il reste pratiquement plus rien. Et nous, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est de créer des modèles en 3D pour comprendre voilà, quel était le volume du lac, quelle était la taille du barrage morainique, pour essayer de comprendre les forces qui étaient en jeu à ce moment-là.
Oui, oui, enfin, ça a l'air quand même vachement violent pour un matériau qu'on pensait inerte. Enfin, tout ce qui se passe, tout ce qui bouge, tout ce qui, enfin, toutes les forces qui existent en surface, mais aussi en sous la surface, enfin, les banquises de tous les fleuves qui existent à l'intérieur. On va en parler d'ici un instant. Le dernier point que je voulais qu'on mentionne dans cette liste de dérèglements, si on veut, de cette cryosphère, c'est le permafrost, le pergélisol.
Oui.
Qu'on oublie souvent, mais comme tu dis, enfin, Ça couvre 25% des sols de l'hémisphère nord. Enfin, c'est dingue, quoi.
Ouais, je rigole parce que ça me rappelait quand j'étais à l'université pendant mon doctorat, on disait toujours que le permafrost était the dark side of the forest. C'était pas aussi cool que d'étudier les glaciers. Non, en vrai, le permafrost est ultra cool à étudier, mais ultra important parce qu'il va être déterminant pour notre avenir à tous. Tu sais, en fait, du permafrost, en fait, on en a déjà chez nous, en France, dans nos hautes montagnes. Alors, c'est pas tout à fait le même type de permafrost. Là, on parle plus d'un état thermique. Donc, c'est la glu, en fait, qui va maintenir nos montagnes, nos hautes montagnes telles qu'elles sont. Tu vois, quand on pense à l'Aiguille du Midi, quand on pense à voilà, des hauts sommets comme ça, c'est de magnifiques granites, on se rend compte qu'à l'intérieur de ces montagnes, voilà, vu qu'il fait très froid, ce froid, en fait, maintient les roches ensemble. Et quand ce permafrost-là dégèle, on a des éboulements, des écroulements. Là, c'est Ludovic Ravanel, notamment, ou Florence Magnin, voilà, qui sont des super spécialistes de ce qui se passe au niveau du permafrost dans nos montagnes. Et si tu dézoomes un petit peu, on a aussi donc ce permafrost qui, alors lui, n'est pas tout à fait la même chose, mais ce permafrost qui est plus ce sol gelé, qui est rempli de matière organique, donc qui occupe voilà, pratiquement un quart des terres de l'hémisphère nord. Donc c'est énorme. On pense bien sûr à la Sibérie, tu vois, dès qu'on parle du permafrost. Et en fait, ce permafrost-là, bah oui, quand il dégèle, il cause tout un tas de problèmes. Il y a vraiment trois énormes problèmes qui sont liés à ce dégel du permafrost. Alors, peut-être dans l'ordre de la peur des scientifiques, je vais commencer par le premier, c'est que le permafrost, donc, il est plein de matière organique. Et c'est ce que je dis quand je vais voir des écoles ou des collèges, je leur dis, bah, il y a des mammouths, voilà, il y a plein de choses qui sont enterrées dans ce permafrost.
Des dinosaures,
voilà, il y a beaucoup de plantes, voilà, qui ont été enfermées là-dedans depuis très longtemps. Et en fait, quand le permafrost dégèle, l'exemple que je leur donne, c'est comme si tu sors ta pizza du congélateur et tu la laisses sur ta table pendant des semaines et des mois. Ça va pourrir, ça va se faire manger par les microbes, par les bactéries. Et on se rend compte qu'en fait, quand les microbes se mettent à manger, à se réveiller, donc, hein, quand il commence à faire chaud, ça dégèle, ils se réveillent, ils mangent cette matière organique, ça va émettre des gaz à effet de serre. Et suivant les conditions d'oxygène, s'il y a beaucoup d'oxygène ou si c'est dans l'eau, ça va soit émettre du CO2, soit émettre du méthane. Et donc, c'est tous les deux des gaz à effet de serre très puissants, particulièrement, encore plus le méthane que le CO2. Et aujourd'hui, pour te donner une petite idée, le permafrost, c'est des chiffres qu'on m'a donnés il n'y a pas très longtemps, il émet autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme le Japon, qui est le 7e émetteur mondial voilà, de gaz à effet de serre. Donc, c'est quand même pas du tout négligeable. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça, ou bien pire, hein. Si on dépasse les 1,6 degrés d'augmentation de température, c'est des données très très récentes, ce permafrost de l'hémisphère nord, il risque de commencer à émettre autant de gaz à effet de serre, alors d'ici la fin du siècle, hein, dans les prochaines décennies, équivalente à un pays comme l'Inde, donc ça commence à devenir très très sérieux. Et une fois que le permafrost il commence à dégeler, même si ça a été une sorte de snap, tu vois, de coup de chaleur, il va émettre des gaz à effet de serre pendant au moins à la même puissance pendant au moins 150 à 200 ans. Donc c'est super. Donc voilà, 1,6 degré l'Inde. Si on dépasse les 2 degrés, il risque d'émettre autant de gaz à effet de serre que l'Union européenne. Donc ça devient vraiment majeur. Et on peut encore faire pire. Si on dépasse les 3 degrés, ce permafrost, il va émettre autant de gaz à effet de serre que là, tu choisis hein, les États-Unis ou la Chine, et ça chaque année. Donc, ça veut dire pourquoi c'est important ? Bah, parce que déjà, ça va encore plus accélérer le dérèglement climatique. Parce que aussi, le permafrost, bah, tu ne peux pas aller lui dire l'année prochaine, il faut que tu revoies tes objectifs climatiques, voilà, que tu réduises de 5 à 6 %. Voilà, ça va être compliqué. Et parce que ça veut dire que nous, nos budgets d'émissions pour ne pas dépasser, voilà, et on y reviendra, des seuils de température très importants, les 1,5 degrés, ils vont devoir être réajustés constamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre du permafrost. Donc finalement, tu vois, quand t'es un pays, quand t'es une entreprise et que t'as des budgets carbone, eh ben, il va falloir se préparer, en fait, à réajuster notre marge de manœuvre face à ce qui se passe au niveau du permafrost. Donc ça, c'est vraiment ultra important à comprendre. Le deuxième point pour lequel ce permafrost, il est important, c'est parce que, bah, si tu regardes juste ce qui se passe dans l'Arctique, donc cette région autour du pôle Nord, dans l'Arctique, il y a 7 millions d'habitants. Donc, c'est quand même une région assez peuplée, même si la densité de population est très faible vu la taille, mais tu as quand même 7 millions de personnes. Et le groupe de travail pour lequel je travaille, donc EIMAP au Conseil de l'Arctique, a calculé que 66% des infrastructures de l'Arctique sont posées sur du permafrost. Et donc, tu as des habitations, bien sûr, tu as des écoles, tu as des hôpitaux, je ne sais pas, des choses comme ça. Tu as aussi des infrastructures clés, tu as des aéroports, tu as des ports, tu as des pipelines, tu as des unités de stockage de matières dangereuses. Et c'est ça aussi qu'il va falloir gérer. Parce qu'on a déjà plein d'exemples, hein, notamment côté russe. Maintenant, on voit tout par image satellite, qu'il y a des pipelines voilà, qui se déstabilisent, qu'il y a des unités de stockage du kérosène qui sont déjà déversées dans des rivières à cause du dégel de permafrost. Donc ça, énorme besoin d'adaptation, mais immense besoin d'adaptation dans ces régions-là. Et le dernier point, alors ça c'est le point qu'on me demande ça systématiquement et je comprends parce qu'on est encore dans une pandémie et qu'on n'a pas l'impression d'en voir la lumière au bout du tunnel. Mais c'est que quand le permafrost dégèle, voilà, il y a plein de trucs qui ressortent à la surface, donc virus, bactéries, microbes. Et oui, il y a déjà eu des exemples, je crois que c'était autour des années 2010, peut-être en 2008, où en Sibérie, il y a les bactéries de l'anthrax voilà, qui sont sorties. Il y a eu des rennes qui sont morts et quelques communautés humaines voilà, qui ont été touchées, qui ont eu quelques victimes à cause de ça. Alors, quand tu parles aux scientifiques, je ne te cache pas qu'ils sont vraiment les gros boss du permafrost, ils te disent que de très loin, le plus flippant, c'est les émissions de gaz à effet de serre, parce que ça va affecter la Terre entière. Mais bon, c'est quand même pas négligeable, cette histoire de virus et de bactéries. Ouais.
La panacée, donc je pense qu'on a fait... On a fait un peu le panneau, on a montré un peu tout ce qui se passe autour des glaciers. Mais évidemment, on a vraiment du mal avec les échelles de temps, avec les dynamiques. Dès que c'est... Enfin, le linéaire, on comprend, mais dès que c'est non linéaire, on a du mal, quoi. Et je pense que les glaciers sont vraiment que du non-linéaire aujourd'hui. Et du coup, on peut parler peut-être de boucle de rétroaction. Donc, tu disais tout à l'heure, plus la neige fond. Enfin, ou le glacier.
Ouais.
Et il y a aussi le concept de point de bascule, qui sont un peu des seuils à partir duquel bah, on est un peu dans un autre état, un autre régime.
Exactement.
Est-ce que tu peux illustrer un peu tout ça?
Ouais, bah, je peux te prendre l'exemple... J'espère l'exemple le plus parlant qui répondra à ces deux questions-là. En fait, on se rend compte qu'il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas trop négocier sur Terre. Notamment, c'est aussi bête que ça, hein, que la glace fond au-dessus de 0 degré. Voilà, tu ne peux pas trop négocier avec ça, c'est comme ça, c'est une réalité physique. Donc c'est vrai, quand j'entends qu'il faut peut-être prendre un peu plus son temps pour la transition énergétique, certes, non. En fait, voilà, donc l'exemple que je voudrais te donner, c'est que les toutes dernières connaissances scientifiques semblent nous montrer que si on regarde juste ce qui se passe au niveau du Groenland, voilà, la calotte polaire du Groenland, donc encore une fois, 3 à 4 fois la taille de la France, 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers, cette calotte polaire, il semblerait qu'elle est un point de bascule, donc elle est un seuil de température au-delà desquels elle va commencer à s'effondrer. Ce seuil de température, là, les derniers papiers scientifiques nous montrent que c'est soit autour des 1,5, soit autour des 2 degrés. Voilà, donc c'est vraiment dans ces seuils de température. Ça tombe bien parce que c'est vraiment les seuils de ce qu'on appelle l'accord de Paris, les COP. Voilà, on parle souvent des 1,5 et des 2 degrés. Donc il semblerait que, tu vois, pour le Groenland, en fait, si on dépasse ce seuil de température, la calotte polaire risque de s'effondrer. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on aura vraiment franchi ces seuils de température, sur plusieurs années, plusieurs décennies, le Groenland va commencer à s'effondrer. Ça veut dire que si ensuite on trouve, je ne sais pas, par magie, j'ai une baguette magique, on arrive à enlever tout le CO2 et le méthane en trop dans l'atmosphère, le Groenland il continuera à s'effondrer. Donc, quand on parle de point de bascule, en fait, c'est vraiment cette notion d'irréversibilité. Donc, comme tu dis, tu passes d'un état à un autre, ça veut dire que le Groenland, il continuera à s'effondrer quoi qu'il arrive. Donc, l'idée, c'est de ne pas dépasser, en fait, ces seuils de température. Très facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire. Et pourquoi le Groenland, il risque de commencer à s'effondrer? Donc, le Groenland, il faut que tu t'imagines que c'est un peu comme une pyramide de glace. Donc imagine, voilà, une pyramide de glace, le haut de la pyramide, et à haute altitude, hein, c'est à 3000 mètres d'altitude. Donc plus t'es haut en altitude, plus il fait froid. Hein. Alors que la périphérie du Groenland, elle est au niveau de la mer, donc elle est à 0 mètre d'altitude, et là, forcément, naturellement, il fait plus chaud. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc le Groenland, il fond de plus en plus, c'est surtout la partie basse, donc la périphérie qui fond. Et ce qui se passe, c'est que, t'imagines cette pyramide, elle risque de commencer à s'affaisser. Plus elle s'affaisse, cette pyramide, bah finalement, plus la glace, elle va se retrouver à basse altitude, plus elle est à basse altitude, plus elle fond, plus elle fond, plus elle est à basse altitude, plus elle est à basse altitude, plus elle fond. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle voilà, ces boucles de rétroaction positives. Alors ça n'a rien de kiffant, hein. Le terme positif n'est pas... C'est un cercle vicieux, ouais. Ça veut juste dire que ça s'accélère, que ça s'auto-entretient. Et donc pour le Groenland, On pense, mais j'espère encore une fois qu'on se trompe, de toute façon la science est là pour ça, pour essayer d'avoir les meilleures données possibles. On a l'impression, du moins, nos chiffres et nos modèles le montrent, que si on dépasse donc soit les 1,5, soit les 2 degrés, donc dans ces eaux-là, le Groenland va commencer à s'effondrer. Ensuite, ça ne veut pas du tout dire qu'on va se taper 6 à 7 mètres d'élévation du niveau des mers du jour au lendemain, dès qu'on a franchi ce seuil, pas du tout. En fait, ce que ça veut dire, c'est que ça va commencer à s'effondrer, ça prendra, j'espère, quelques siècles, voire quelques millénaires à arriver ces 6 à 7 mètres, mais ça veut dire qu'on ne pourra pas arrêter ce mécanisme-là. Ensuite, c'est vraiment à nous d'ajuster, voilà, si on veut que ça arrive un peu plus vite ou un peu plus lentement. Mais ce qui est important derrière ces points de bascule, c'est deux choses, et ça, je t'apprends rien. C'est la première chose, qu'il faut tout faire pour éviter de les dépasser. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc la mitigation, voilà, réduire notre utilisation d'énergie fossile à la source, c'est vital aujourd'hui. Et ça veut aussi dire ces points de bascule, et on risque d'en franchir, hein, peut-être que pour la banquise de l'Arctique, on les a déjà franchis, ça veut dire que ça va aussi pousser nos capacités d'adaptation dans leur retranchement. Donc c'est toujours la guerre, voilà, entre l'adaptation et la mitigation, mais il faudra des deux, hein, de toute façon. Mais c'est très clair, c'est que voilà, si on veut éviter d'atomiser la banquise, de faire dégeler tout le permafrost, de faire effondrer une partie du Groenland, une partie de l'Antarctique, on commence à voir que ces points de bascule sont pour la plupart autour des 1,5 degrés d'augmentation de température. Et là, la fenêtre des 1,5 degrés, elle est vraiment en train de se fermer. Elle n'est pas fermée encore aujourd'hui, mais c'est vraiment, ça peut être très très rapide. Surtout parce que par-dessus tout ce qui se passe, il y a encore des cycles naturels qui peuvent aussi encore plus amplifier ce qui se passe. Donc voilà, je trouve que c'est vital de parler de cette notion de point de bascule. En fait, derrière cette notion de point de bascule, bah, tout le reste devrait découler, toutes nos stratégies de mitigation et d'adaptation. Parce qu'en fait, on ne peut pas négocier avec ça. On ne peut pas bouger ce point de bascule du Groenland, ce point de bascule de l'Antarctique. Donc, c'est vraiment à nous de tout faire pour éviter de les pulvériser, quoi.
Ouais, je pense que c'est vraiment essentiel. On ne s'en rend pas compte au fait que bah, c'est pas on va attendre jusqu'à 2030 et à 2030, on va faire les bouchées doubles et après, ça sera bon, quoi. Ça ne se passe pas comme ça, quoi.
Bah ouais. Tu sais, je reviens de la COP28, et ben la COP28, c'est en gros, non mais j'exagère, mais j'avais vu cette phrase sur Twitter ou Instagram qui disait « j'arrête de fumer en 2050 », et ça veut dire en quelque sorte, oui, en 2049, jusqu'au mois de novembre, je serai encore en train de fumer mes paquets de cigarettes. Non, en fait, ouais, là, on ne peut pas, voilà. C'est des réalités physiques, et c'est des réalités physiques que vraiment tout le monde devrait connaître. Tu vois, des femmes et des hommes politiques, aux élus, aux citoyens, aux entreprises, voilà, tout le monde devrait comprendre cette notion de point de bascule.
Je te montre ici une image. C'est il y a l'équipe de Lenton et d'autres personnes, et d'ailleurs ils ont sorti un rapport là il y a quelques mois sur les points de bascule justement, et ils montrent qu'il y a aussi un effet de cascade. Ils sont pas isolés quoi, ces points de bascule.
Ouais, exactement.
Ils entraînent des points de bascule interconnectés, et les premiers sont les points de bascule de la cryosphère quoi.
Exactement.
Et après il y aura les corails etc etc, mais ils sont aussi interconnectés, et je trouve ces travaux-ci qui sont assez parlants de se dire bah, ok, bon, la banquise, on a les idées, on a les comment dire, on se souvient des ours polaires, il y a quelque chose de mignon autour de ça, mais c'est pas que ça quoi, enfin, il y a tout, c'est un château de cartes qui est basé sur la banquise quoi.
Ouais, merci de relever ce point-là qui est vraiment crucial, et c'est vrai que nous, bah, maintenant les scientifiques travaillent plus en plus voilà, sur cette notion d'interconnexion entre ces points de bascule. Je pense que on se rend compte que nous, dans l'Arctique, voilà, une grande partie de ces points de bascule s'y trouvent. Et là, justement, mon groupe de travail dans l'Arctique travaille là-dessus, sur à quel point ces écosystèmes qui changent peuvent soit accélérer, soit ralentir ce changement climatique, et que voilà, tout est lié. Donc l'idée, c'est de tout faire pour pas déstabiliser le château de cartes à sa base. Ouais.
Alors, il y a une autre partie que je voulais parler avec toi, celle de la scientifique, de la glaciologie dans la science, quoi. Toi, tu as fait ton doc au Spitzberg, juste à côté quand même du pôle Nord, rien que ça. Et tu prenais des différentes mesures sur tes différentes expéditions, soit là-bas, soit dans d'autres endroits. Tu disais, c'est un peu comme prendre le pouls, quoi, enfin, des glaciers, mais aussi, si je comprends bien, vous étiez un peu aux portes du changement climatique, quoi. Vous voyez par vos propres yeux et vos propres mesures la violence et la rapidité de ce qui se passe, quoi. Comment ça se passe quand tu fais ton doc là-bas? Qu'est-ce que tu vois?
Ouais, c'est bah déjà c'est extraordinaire quoi de pouvoir faire un doctorat là-haut. C'est l'université la plus au nord de la planète. On a voilà, on
la
a
ville au plus au nord,
la ville à tout, voilà, l'hôpital, la piscine, exactement la banque. Et c'est magique d'être là-bas parce que donc c'est cet archipel qui s'appelle en français on dit plutôt Spitsbergen, c'est l'île principale et c'est l'archipel du Svalbard. Et oui, donc on est vraiment, c'est un peu le monde de Narnia, c'est merveilleux, c'est d'une beauté à pleurer. C'est à peu près, si je me trompe pas, c'est 54% des terres sont recouvertes de glaciers. Pratiquement tout le sol est fait de permafrost. L'hiver, t'as la banquise qui revient, donc t'es au cœur de la cryosphère, en fait. C'est génial. T'imagines, quoi, pour nous, quand t'es glaciologue, ce privilège d'être au cœur du sujet. Tu vois, le glacier le plus proche, il est à 2 kilomètres de l'université, quoi. Donc, quand tu pars en expédition, bah, tu pars à la journée, quoi. Ouais. Tellement que c'est facile.
Tu pars à pied, quoi.
Tu pars à pied, voilà, c'est pas compliqué. Et donc, c'était, je pense que tous les jours pendant mon doctorat, et maintenant j'ai la chance d'y habiter encore là-haut une partie de l'année, quoi, je me pinçais en me disant, c'est pas possible d'être ici, quoi, c'est magique. Et ce qui s'est passé ces dernières années, c'est qu'on s'est vite rendu compte que le changement climatique, oui, il tacle l'Arctique, mais il tacle particulièrement cette région-là. Donc c'est encore une fois en grande partie lié à la banquise qui disparaît, donc on a de plus en plus d'océans qui se réchauffent. Mais on est en train de voir que le Svalbard et toute la partie de mer en fait autour du Svalbard, jusqu'au côté russe, jusqu'à Novaya Zemlya, voilà, qui est une île russe, c'est devenu l'épicentre du changement climatique. Donc c'est devenu l'endroit qui se réchauffe le plus vite sur Terre aujourd'hui. Et pour te donner voilà, un chiffre qui est vraiment super flippant, c'est que là, sur Terre, en gros, les températures ont gagné à peu près 1,2 degré hein, depuis l'ère pré-industrielle. Donc ça paraît pas grand-chose, mais nous, quand on passe de, je pense, de 40 à 41, on se rend vite compte que ça peut être très brutal.
On va à l'hôpital.
On va vite à l'hôpital. C'est Jean-Louis Etienne qui prend souvent cette image qui est très juste. Bah, au Svalbard, on n'en est pas du tout à 1,2 degré. Rien que depuis les années 60, donc bien après le début de l'ère pré-industrielle, on a gagné 6 à 7 degrés, quoi. Donc c'est énorme. Et pour l'instant, la moyenne annuelle, elle est toujours dans les températures négatives, mais on risque vraiment là aussi de passer d'un état à l'autre. Et là, la transition est super violente. Donc c'est-à-dire que, voilà, moi, les glaciers que j'étudie encore là-bas, c'est des glaciers qui sont bouleversés. Donc leur comportement est bouleversé par le changement climatique. Mais aussi, on a beaucoup de glaciers qui reculent, qui se déconnectent de l'océan, voire des glaciers qui meurent. On est en train de voir que la banquise a de plus en plus de mal à se former. Et la banquise qui se forme pas, c'est nous, notre météo, en fait, de tous les jours, qui est, mais terrifiante, quoi, qui devient ultra violente. Là, en début 2023, la banquise, elle s'est formée avec 3 mois de retard, ce qui était vraiment du jamais vu. On a eu que des tempêtes, quoi. En fait, on sentait qu'il y avait un déséquilibre dans la nature. Il y avait quelque chose qui allait pas. La météo était horrible. On pouvait presque pas aller sur le terrain tellement que c'était violent. On a aussi le permafrost qui dégèle. Donc, on a, voilà, pas mal de soucis par rapport à ça et liés aux infrastructures. Et on a aussi, et ça, c'est terrifiant, on a aussi énormément de changements de précipitation. Donc on a énormément de pluie qui tombe sur l'archipel, alors que c'est un désert, hein, c'est un désert du Haut-Arctique, donc généralement il y a très peu de précipitations, l'air est très sec. Donc on a énormément de pluie, même des pluies en plein hiver, hein, donc c'est affreux. Et on a aussi de plus en plus de neige qui tombe. Et quand la neige tombe, et ben parfois elle tombe en quantité telle qu'on a des avalanches. Et ces dernières années, quelque chose qui a, et je le comprends, qui a énormément traumatisé la société, le petit village là où je suis de 2000 habitants, c'est qu'il y a eu des avalanches en pleine ville et des avalanches qui ont tué voilà, des habitants de ce petit village, du village le plus au nord de la planète. Donc là-bas, comme tu dis, c'est que certes, nous, on est là pour étudier ce changement climatique, mais on ne peut pas, on n'est pas protégé contre le fait que voilà, tout est en train de changer là-bas. Et c'est affreux, quoi. Moi, c'est un environnement qui m'émerveille, un environnement où j'y ai mis tout mon cœur, tu vois, et de voir à quel point les choses sont en train de changer. C'est affreux, quoi. C'est vraiment horrible. Et en même temps, cet endroit, bah, c'est devenu le plus grand symbole du changement climatique. Et donc, il faut en parler, quoi. Il faut montrer que tout ce qui se passe là-bas, certes, affecte la population là-bas, mais surtout affecte le reste de la planète et que tout est lié. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Ce qui se passe dans l'Arctique ne reste pas dans l'Arctique. Mais franchement, la chance qu'on a, entre guillemets, c'est là-bas, on se rend compte, quoi. On se rend compte que quand la nature, elle est déstabilisée, mais on est mort, quoi. On est mort. Et je suis désolée de parler de façon aussi violente, mais je pense qu'on a complètement oublié. Ben là, on a eu malheureusement des rappels à l'ordre assez violents ces derniers mois, en France ou ailleurs. Mais que cette nature, voilà, quand elle s'énerve, mais en fait, on n'est pas du tout prêt à ce qui est en train de se passer.
Ouais, non, mais c'est dingue. Enfin, je m'imagine pas, je n'arrive pas à m'imaginer en tant que toi, personne, en tant que toi, scientifique, de voir ça, ne pas comprendre, ne pas savoir comment réagir, ne pas savoir comment faire évoluer ta propre discipline. Enfin, tu dois être un peu... voilà, enfin...
C'est déstabilisant
voilà,
au plus haut point, quoi. Au plus
exactement.
Haut. Tu reconnais plus rien, en fait. Tu reconnais plus rien.
Donc, j'imagine, enfin, pour cette discipline qui reste jeune, ça change du tout au tout. Au quotidien, vous devez changer vos mesures, redéfinir les modèles. Enfin, tout doit changer. C'est cool parce qu'au moins, il y a de l'action.
Ouais,
il y a rien qui...
Il y a du challenge, quoi.
Mais j'imagine que ça doit être des remises en question assez profondes, quoi.
Ouais. Et là, je t'assure que c'est vraiment le sujet de conversation principal, je pense, avec mes collègues, avec d'autres glaciologues. C'est... Quoi, on a l'impression que les choses vont beaucoup plus vite qu'on le pensait. Tu vois, juste pour te donner un chiffre, et ça, c'est pas un chiffre de l'Arctique, mais c'est un chiffre qui est quand même déstabilisant, c'est que rien que ces deux dernières années dans les Alpes suisses, les glaciers ont perdu 10% de leur volume. Et je pense que personne n'avait vu ça venir. Donc c'est énorme. T'imagines, si nous, on perdait 10% de notre poids en deux années, quoi, c'est pas bon signe. Et c'est pareil dans l'Arctique.
Ans, ouais. En deux ans.
Voilà, en deux ans, c'est vraiment très short. Et dans l'Arctique, c'est pareil. En fait, on est en train de se rendre compte que... Alors, heureusement, là, on a rattrapé le coche, mais que jusqu'à il y a encore quelques années, que nos modèles, en fait, malheureusement, étaient assez conservateurs et sous-estimaient notamment le réchauffement de l'Arctique. C'est toute une histoire voilà, un peu technique, mais aujourd'hui on le sait heureusement et donc on rattrape le temps perdu largement, mais voilà, c'est déterminant ce qui se passe en Arctique et donc c'est vraiment une chance de pouvoir passer du temps là-haut pour s'en rendre compte et au-delà des chiffres, tu vois, au-delà des statistiques, de parler de notre vécu là-haut, quoi, de parler de notre ressenti, parce que c'est, tu vois, là le changement climatique on le ressent dans notre chair, quoi. Et quand tu vois voilà, des rangées de maisons qui sont faites exploser par une avalanche et que tu sais que si cette avalanche, bah, elle aurait eu beaucoup moins de chances de tomber s'il n'y avait pas eu le changement climatique, ouais, ça te donne une bonne raison d'être, en tout cas, ça te donne une bonne raison de continuer à faire ton métier. Ouais.
Bon, il y a ces phrases qui sont quand même assez fortes dans ton livre, que tu disais que ton objet d'étude disparaît sous tes propres yeux. C'est vrai que on se l'imagine juste, ça aurait pu être aussi ta propre famille, ta propre... Enfin, tes propres connaissances, ta culture, enfin, on voit des choses s'effondrer et du coup, j'aimerais qu'on passe un dernier moment ensemble pour se parler du futur des glaciers et de nos sociétés. Donc. On a un peu fait l'arc de d'où est-ce que ça vient, comment ça s'est créé, comment on a violemment essayé de prendre le contrôle et on se rend compte qu'on contrôle que dalle. Et il y a quand même le futur qui est devant nous. Premièrement, bah, il y a certains endroits où les glaciers ont tout simplement disparu. Ça entraîne plusieurs choses. Ça entraîne, par exemple, des questions de géopolitique, que ça soit le passage des bateaux en Arctique, que ça soit juste maintenant l'exploitation minière des fonds marins en Norvège. Enfin, désolé.
Parlons-en.
Il y a l'eau potable et sa disponibilité. Donc, il y a quand même de la géopolitique qui va se créer d'ici peu. Enfin, nos sociétés vont se réagencer et se réagencent aujourd'hui, quoi.
Oui, je pense qu'on est déjà en plein dedans, hein, qu'on le sache ou non, mais on n'a pas le choix, quoi, d'essayer de s'adapter par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai que ça va nous demander, voilà, pas mal de coopération entre nous, énormément de créativité, je pense. C'est une bonne dose de respect, ouais, par rapport à cette nature, de devoir s'adapter par rapport à tout ce qui se passe. Et c'est vrai que il faut se préparer à perdre une partie de cette cryosphère, quoi. C'est inévitable. Tu vois, il y a une étude qui est sortie, et peut-être que cette étude était conservative maintenant quand on voit ce qui se passe, mais qu'au moins la moitié des glaciers sur Terre va disparaître, donc c'est plié, voilà, pour la moitié des glaciers sur Terre. Donc moi, ce qui me motive, c'est de se rattacher à ce qu'on peut encore sauver, bien sûr, parce que le reste, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour ça, et donc de se concentrer là-dessus. Et donc on sait notamment dans les Alpes, voilà, si on reste sur la trajectoire actuelle, on va perdre la majorité des glaciers dans les Alpes, mais si on réagit, si on reste sous les 1,5 degrés, on peut encore préserver, je crois que c'est à peu près 40% du volume des glaciers des Alpes. Donc tu vois, il y a quand même énormément d'espoir d'en garder une partie de ces glaciers. Mais tu as raison que d'un côté, bah, c'est toujours les plus vulnérables, c'est toujours ceux qui ont moins causé le changement climatique qui vont subir ces manques d'eau, qui vont subir, voilà, ces événements météorologiques extrêmes et qui ne pourront qu'on peut-être pas les moyens, malheureusement, de réparer, de s'en protéger. Et c'est toujours les pays les plus développés, les plus polluants, qui, eux, parfois, alors pas tous, heureusement, mais parfois se réjouissent que, par exemple, voilà, la banquise se rétracte au niveau de l'Arctique et que ça crée d'autres opportunités économiques. Mais en fait, comment dire? Alors, peut-être qu'on parle de ça, parce que c'est vraiment important de parler de ce qui se passe dans l'Arctique par rapport à aux nouvelles routes de navigation. Les nouvelles routes de navigation, donc là, pratiquement tous les pays s'y préparent, hein, donc c'est pas du tout voilà, comme si on attendait que ça se passe. On sait que cette banquise, elle va continuer à se réduire de façon considérable dans les décennies à venir, et que si on réagit très vite, ben, peut-être qu'on pourra un peu sauver une partie de la banquise pendant l'hiver, tu vois, mais pendant l'été, c'est pratiquement plié. Et s'il y a moins de banquises, beaucoup se disent, ben, moins de banquises, moins de problèmes, on va pouvoir faire passer plus de bateaux. Et en effet, de pouvoir passer par l'Arctique, en fait, ça raccourcit les routes de navigation. Donc, il y a même quelqu'un qui m'a dit une fois, ben, si les routes de navigation, elles sont plus courtes, moins de CO2. Moins de CO2, voilà. Alors, c'est pas si simple que ça, évidemment. En fait, cette banquise, donc non seulement c'est le t-shirt blanc de l'hémisphère nord, mais cette banquise, tu sais, c'est assez incroyable quand tu navigues dans la banquise ou autour de la banquise, elle absorbe l'énergie des vagues. Donc tu sais que si tu posais un couvercle comme ça sur l'océan, et s'il y a des tempêtes et tout, bah, le fait d'avoir ce couvercle dessus, bah, ça temporise l'amplitude des vagues, etc. Donc plus de banquise, bah, ça veut dire qu'il y a des calculs qui sont faits là-dessus, des hauteurs de vagues considérable dans l'Arctique. On parle de dizaines de mètres pour les pires tempêtes. T'auras quand même de la glace dans l'Arctique. J'en parle dans le bouquin, mais t'auras quand même de la glace qui va se balader. Sauf que c'est pas de la banquise que tu peux pulvériser avec un brise-glace. Là, ce sera de la glace qui est beaucoup plus dure. Ce sera de la glace du Groenland. Et des autres, si on reste encore des petits glaciers qu'il y a sur les périphéries du bassin de l'océan glacial arctique. La glace de glacier, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur que de la banquise. Un brise-glace n'a aucune chance hein, contre de la glace de glacier. Donc, contre un iceberg, quoi, on a tous voilà, la fameuse histoire du Titanic en tête. C'était pas de la banquise, c'était vraiment un iceberg. Donc, c'est vraiment ultra dur comme glace. Donc, t'imagines le cocktail entre des vagues gigantesques, des morceaux d'iceberg qui se baladent. Et en plus, on sait que l'Arctique... Donc si t'enlèves ce couvert de la banquise, on risque d'avoir aussi beaucoup plus d'évaporation, beaucoup plus de brouillard dans l'Arctique. Et les fonds marins sont mal cartographiés. Donc en fait, t'as tous les ingrédients réunis pour une catastrophe, quoi.
Et les gens se réjouissent par rapport à ça.
Ouais, quoi. Et alors pas tous, heureusement. Je pense que c'est juste une poignée, hein, évidemment, qui s'en réjouissent, mais qui pensent que ça va être... En fait, c'est pas tout noir ou tout blanc, voilà. Peut-être qu'avec des nouvelles technologies, avec des satellites, avec une cartographie super des fonds sous-marins, des bateaux qui ne pourront pas créer de marée noire, voilà, peut-être qu'on y arrivera. Mais voilà, c'est pas si simple que ça, cette histoire de nouvelles routes de navigation dans l'Arctique. Donc ça, voilà, grosse, grosse prudence. Et en fait, on se rend compte que cette histoire de l'Arctique, bah, c'est à peu près pareil partout, quoi. On a l'impression que ça va résoudre des problèmes, qu'il y ait ces écosystèmes qui s'effondrent, mais en fait, on se rend compte que le coût des conséquences négatives, mais il est des ordres de magnitude supérieurs à ce peu de bénéfices qu'on pourrait avoir, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas se planter. Et j'aimerais vraiment évoquer un sujet avec toi qui me touche particulièrement par rapport aux solutions. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça ? De très loin, les solutions pour éviter de dépasser ces points de bascule, la solution la plus safe, la solution la moins chère, la solution la plus efficace, c'est d'arrêter d'aller chercher ces énergies fossiles et de les brûler. On le sait, quoi, et tant mieux qu'on sait que c'est nous la cause du problème, donc c'est quand même génial, donc on sait qu'on est vraiment celles et ceux qui ont les solutions entre leurs mains. Donc de loin, c'est vraiment les énergies fossiles. Après, t'as la déforestation aussi, t'as la construction, là, t'as plein de choses que l'on peut améliorer, mais vraiment ces énergies fossiles, il faut vraiment qu'on arrête de les utiliser autant. Donc sobriété et tout ce que ça emmène, c'est vraiment crucial. Là, à la COP28, donc à la dernière COP, j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment fait flipper. En fait, quelque chose que je prenais pas du tout au sérieux, je l'avoue, il y a quelques années, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Et la géo-ingénierie, maintenant, c'est un sujet qui me passionne et qui m'énerve énormément aussi. Mais en fait, la géo-ingénierie, c'est le terme exact, la définition exacte, c'est toutes les techniques qui visent à manipuler notre climat ou manipuler des écosystèmes pour, voilà, par exemple, résoudre certains problèmes comme le problème du changement climatique. Mais c'est vraiment de l'ingénierie. Donc, t'imagines le climat, en fait, comme une machine. Et donc, cette machine, t'imagines que si tu mets un bout de duct tape, si tu changes une pièce, et j'exagère, hein, les géo-ingénieurs ne m'en voulaient pas, mais j'exagère un tout petit peu, bah, t'as l'impression que tu vas pouvoir tout résoudre. Tu vois que ton moteur, il marchera mieux. Mais en fait, comme on l'a évoqué là tout au long de cet échange, le climat, tout est lié, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Si tu touches un petit truc par-ci, un petit truc par-là, ça va créer plein de conséquences qu'on connaît peut-être pas encore aujourd'hui, quoi. Et donc, les géo-ingénieurs, à la COP28, ils étaient vraiment présents. Donc, parce qu'ils pensent qu'ils vont nous offrir des technosolutions, apparemment, qui pourraient résoudre le problème du changement climatique. Donc, parmi les solutions qu'ils ont évoquées, c'est notamment d'envoyer des particules de soufre dans la stratosphère. En fait, ça, les volcans le font très bien. Quand on a une petite, là, il y a des belles éruptions en Islande ces derniers temps. Et ben, parfois, ces éruptions vont balancer du soufre jusque dans la stratosphère. Ça va faire écran, en quelque sorte. Ça va bloquer une partie du rayonnement solaire. Et donc, il fera un petit peu plus froid sur Terre. Ça, c'est prouvé. Voilà. On sait très bien que ça marche. Le problème, c'est que ça crée plein de conséquences négatives au coût stratosphérique. Donc, par exemple, ça crée des pluies acides. Ça risque de perturber, si on le fait dans l'Arctique, cette géo-ingénierie-là, ça risque de déplacer le cycle de la mousson en Inde. Ça risque d'acidifier encore plus nos océans qui sont déjà de plus en plus acides. Donc là encore, le coût cost-bénéfice, tu vois, le ratio est complètement déstabilisé vers le coût de ça va être monumental. Et le problème de cette géo-ingénierie, c'est qu'aujourd'hui, alors c'est très sexy, c'est très attractif quand tu es une entreprise ou un gouvernement et tu veux compenser ton carbone, tu appuies sur un bouton, tu envoies des roquettes dans l'atmosphère, tu refroidis le climat sur Terre, tu as l'impression que tout va bien. Mais en fait, on n'a pas de système de gouvernance, donc on ne sait pas qui prendra la décision de le faire. Là, il y a un bouquin que je recommande souvent qui s'appelle « Ministry for the Future », que tu as sûrement lu, je ne sais pas, mais qui commence avec une canicule en Inde, il y a des millions de morts, et l'Inde dit « on balance les roquettes, quoi, on fait du solar radiation management, tant pis, on bloque le rayonnement solaire, tant pis quoi ». Et en fait, ça soulève plein de questions, voilà. Cette question de qui va prendre la décision, on n'a pas d'organe pour l'instant international qui pourrait prendre ces décisions. S'il y a un problème, est-ce qu'on peut revenir en arrière ou pas ? Voilà, est-ce que c'est des technologies réversibles ou pas ? Si ça crée des problèmes supplémentaires, et certainement, qui va payer pour ces réparations-là ? Voilà, est-ce que c'est le pays qui a pris la décision ou l'entreprise qui a lancé le truc ? Et aussi...
Quelle garantie avons-nous ?
Quelle garantie avons-nous ? Et là, le nerf de la guerre, c'est qui finance ça ? Parce qu'aujourd'hui, je t'assure que le financement derrière, il est énorme. Et nous, les glaciologues, on aimerait bien avoir autant de financement. Mais on ne l'a pas du tout. Et donc, il ne faut pas être naïf du tout par rapport à la géo-ingénierie. Moi, je n'arrive pas hein, pour l'instant à savoir, et je leur ai demandé tout au long de la COP qui finançait ces projets-là, je ne suis pas arrivée à le savoir. Ils nous ont dit que ce sont des philanthropes, ce sont des milliardaires, mais oui, mais qui on veut des noms. On sait qu'il y a beaucoup les États-Unis et la Chine qui sont derrière ça aussi. Et pour l'instant, je comprends tout à fait hein, que les géo-ingénieurs disent « mais il faut qu'on fasse de la recherche sur les conséquences potentiellement négatives de ces projets-là. » Oui, bien sûr, mais qu'on n'utilise pas ça comme excuse pour lancer ces projets-là, quoi. Donc voilà, donc les solutions, je suis désolée, il n'y a pas de baguette magique pour sauver la cryosphère, il n'y a pas de baguette magique pour ne pas dépasser les 1,5 degré, ça reste de tacler ces énergies fossiles, déjà d'arrêter de les subventionner, comme on le fait aujourd'hui, par trilliards chaque année, et la géo-ingénierie, donc grosse prudence, tout n'est pas à jeter dans la géo-ingénierie, mais là, franchement, 90% de ce que j'ai vu à la COP n'avait soit aucun sens, soit n'avait pas du tout réfléchi aux conséquences sur la biodiversité, sur la circulation océanique, sur la circulation des courants d'air, etc. etc. Donc, attention, quoi. Il faut les prendre très au sérieux, quoi.
Surtout pas ralentir la machine. Il y a un dernier point que j'aimerais qu'on parle ensemble, c'est ce récit que tu as par rapport à la Colombie. Parce que j'ai l'impression que c'est peut-être aussi quelque chose qu'on oublie, que même si on perd les glaciers, même si un jour la banquise disparaît, même si les Alpes disparaissent un jour, juste le fait de faire durer un maximum ce qui existe, notre patrimoine, comment on s'attache par rapport à ceci, et comment ça peut être des citoyennes et des citoyens qui font ça, plutôt que des scientifiques, enfin, ou ensemble, hein, je ne dis pas que... mais je trouvais cette histoire très, très belle et je trouvais qu'elle donnait plein d'espoir par rapport à comment on peut s'y prendre pour la suite, quoi.
C'est assez extraordinaire ce qui se passe en Colombie. Ça fait vraiment pas longtemps que je travaille sur les glaciers. Donc, il y a des glaciers en Colombie qui sont autour de 5000 mètres d'altitude. C'est ce qu'on appelle des glaciers tropicaux. Donc, on est vraiment le long de l'équateur. Hein. Et la raison pour laquelle il y a encore des glaciers là-haut, dans ces montagnes, sur ces volcans, c'est que c'est des glaciers qui sont hérités du dernier âge de glace. Et des glaciers qui subsistent parce qu'ils arrivent à rester dans le froid de la haute altitude, en quelque sorte. Et ces glaciers, malheureusement, en Colombie, voilà, ils sont tous en train de disparaître les uns après les autres. J'y étais, hein, il y a encore pas très longtemps en Colombie, et malheureusement, on s'est rendu au chevet du glacier le plus étudié des tropiques, avec le glaciologue de Colombie, qui s'appelle Jorge Luis Ceballos. Et bah, malheureusement, le glacier avait disparu, quoi. Et c'était... Ouais, c'est difficile de placer des mots dessus, quoi. C'était tellement... En fait, t'avais l'impression que ton cerveau ne comprenait pas ce qui se passait, quoi, parce que ce paysage, je le connais maintenant presque par cœur, pas autant que le glaciologue, mais c'est un paysage merveilleux, voilà, de montagnes extraordinaires, quoi. C'est vraiment des paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et tout d'un coup, il n'y avait plus de glacier, quoi. Mais ce qui est fort là-bas, c'est qu'on n'est pas du tout dans du désespoir, on n'est pas du tout dans du « bon, allez, ces glaciers disparaissent, tant pis », on est à fond dans l'action. Et ça, tu vois, on n'attend pas ça de la Colombie, parce que moi, c'est un pays que je connaissais très mal avant. Tout ce que je connaissais de la Colombie, c'était les zones interdites, tu vois, c'était vraiment des trucs genre la Colombie, les cartels, la drogue, voilà, les juntes, des trucs comme ça. En fait, la Colombie, c'est un pays merveilleux. C'est vraiment, pour moi, ça a été... je suis tombée amoureuse de ce pays et des gens là-bas. Et la raison pour laquelle je me suis retrouvée là-bas, c'était à la base pas parce que des scientifiques m'avaient invitée, mais c'est parce que c'était des citoyens qui m'ont invitée. Et notamment une femme qui est extraordinaire et qui a été choisie pour les 100 personnalités du climat par la BBC de cette année. Donc franchement, un immense bravo, qui s'appelle Marcela Fernandez et qui parle français. Donc Marcela, j'espère qu'elle nous écoutera. Et Marcela, c'est elle qui, voilà, en 2019, m'a envoyé un message sur Instagram et m'a dit « Écoute, on a des glaciers dans notre pays. Ces glaciers sont en train de disparaître. Il y a un glaciologue en Colombie et on aimerait vraiment que tu te joignes à nous et que tu viennes passer du temps sur nos glaciers. » Et ils n'avaient pas besoin de moi, ils faisaient déjà un travail extraordinaire. Mais c'est beau, en fait, de voir qu'en Colombie, il y a ce soulèvement citoyen pour les glaciers. Donc Cumbres Blancas, c'est une association qu'elle a créée, les sommets enneigés. Et c'est en fait un groupe d'artistes, d'influenceurs, d'entrepreneurs, de scientifiques aussi, qui ont décidé de travailler ensemble pour déjà éduquer leur pays sur le fait qu'il y ait des glaciers en Colombie. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ouais. Et peu de gens se rendent compte, en fait. Tout le monde sait qu'il y a les neiges éternelles en Colombie, mais que ce soit des vrais glaciers, peu de gens le savent. Donc non seulement d'éduquer les populations, mais aussi de tester plein de choses pour essayer de ralentir la fonte de ces glaciers. Donc, ils ont testé pas mal de solutions low-tech. Et là, maintenant, ils ont changé leur fusil d'épaule. Là, ils font un truc super. Donc, ils ont testé, par exemple, installer des filets sur les glaciers pour coincer la neige quand elle tombe. Ils ont aussi testé les bâches blanches. Mais on sait très bien que les bâches blanches, voilà, ça balance des microplastiques. Ça affecte un petit peu la chimie de l'eau. Donc, c'est pas très bien. Et là, elle est en train de faire, avec Cumbres Blancas, quelque chose d'extraordinaire. C'est que Marcela, elle a compris... Comme on l'a compris il n'y a pas très longtemps autour du Kilimandjaro, qui est aussi un glacier tropical, quoi, parce qu'il y a des glaciers tropicaux au Kilimandjaro, c'est qu'en fait, la santé des écosystèmes autour de ces glaciers, elle est importante. Parce que ces glaciers, il faut qu'il y ait des précipitations pour qu'ils restent. Il faut qu'il y ait de la neige. Et donc, il faut que ce soit humide, en fait, autour de ces glaciers. Pour que ce soit humide, il faut que les écosystèmes autour, les forêts, les zones humides, les zones de marée, voilà, sont en pleine santé. Et en fait, en Colombie, t'as pas des forêts. À 4000 mètres d'altitude, t'as ce qu'on appelle les páramos. Et les páramos, c'est... Quand tu regardes les photos des páramos, c'est genre avatar, quoi. C'est que des plantes que t'as jamais vues de ta vie. C'est une biodiversité extraordinaire. C'est plein de couleurs différentes. C'est plein de plantes médicinales, donc très importantes pour les cogis, pour les communautés autochtones. Et mais le problème, c'est que ces páramos, ils sont ultra menacés par l'agriculture, par la pression humaine. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'avec Cumbres Blancas Colombia, ils ont décidé de lancer presque toute une industrie, en fait, pour faire pousser ce qu'on appelle des frailejones. Alors, ma prononciation, Marcela, va me déchirer. Mais en fait, c'est presque des arbres. C'est parmi les plantes les plus iconiques, les plus symboliques de ces páramos. Et ça crée des puits de carbone, ça capture l'humidité, ça la redistribue. Donc, on se rend compte que, en fait, par des techniques... C'est ce qu'on appelle les nature-based solutions. Tu vois, ces solutions naturelles, c'est en vraiment en travaillant avec la nature, pas ces histoires farfelues de géo-ingénierie, juste en replantant, en reforestant ces páramos, eh ben, on espère rallonger finalement le temps de vie de ces glaciers de Colombie. Ils vont très certainement disparaître, tous ces glaciers en Colombie. Mais là, l'idée, c'est de tout faire à leur niveau, avec toutes les difficultés qu'on connaît en Colombie, bah de tout faire pour protéger leurs glaciers. Et donc, je pense qu'on a vraiment... Que moi, à chaque fois que j'y vais, je ressors de là-bas, mais vraiment avec une inspiration mais incroyable, quoi. De me dire, bah, si eux, ils y arrivent en Colombie, pourquoi est-ce que nous, en France, on n'y arrive pas? Pourquoi? Alors, c'est en train de changer, là, petit à petit. Il y a un vrai soulèvement populaire pour les glaciers en France, et heureusement. Ouais. Mais je pense que, tu vois, on devrait regarder ce qui se passerait du côté de la Colombie, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre d'eux et pas l'inverse.
Ouais, carrément. Bah, écoute, merci beaucoup, Heidi. En général, je demande... si tu as une recommandation d'un livre ou d'un film ou quelque chose, tu as parlé du Ministry for the Future de Kinsley Robinson. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais mettre en avant?
Il y a tellement de choses. Alors attends, mais je vais recommander des personnes en fait que j'admire énormément et qu'il faut suivre à tout prix. On a évoqué très brièvement l'exploitation minière des fonds sous-marins, qui est terrifiante, il ne faut pas laisser passer ça. Donc, je vous recommande à tout le monde d'aller suivre Anne-Sophie Roux et Raphaël Séguin, qui sont tous les deux en train de faire un travail extraordinaire. Donc, c'est vraiment des personnes que j'admire énormément et qui parlent très, très bien voilà, de ces sujets-là sur les réseaux et qui communiquent voilà, de façon impeccable et qui sont dans l'action. Évidemment, de continuer à soutenir des personnes comme Camille Etienne, qui sont sur tous les fronts, qui ne lâchent rien et que j'admire énormément, quoi, d'être vraiment des forces de proposition, des forces d'alternative par rapport à tout ce qui se passe. Qui d'autre je pourrais recommander? Donc, d'autres glaciologues aussi que j'admire, bah, Lydie Lescarmentier, voilà, qui fait un travail super de communication scientifique, qui travaille pour l'organisation pour laquelle je bossais avant, la ICCI, qui est vraiment dans les négociations internationales et beaucoup dans la communication scientifique avec son boulot d'avant pour The Office for Climate Education. Donc, ils font un très bon boulot. Donc, voilà, d'aller suivre toutes ces personnes-là. Alors, il y en a plein d'autres que j'oublie et je m'en excuse, mais on a vraiment besoin, je pense, de se serrer les coudes les uns les autres. Et si je peux pitcher un tout petit peu, placer un documentaire que je viens de terminer avec Pierre Dugovson qui s'appelle Heidi's Ice, qui est disponible, il est sur YouTube, donc il est accessible à tout le monde. C'est un documentaire voilà, qui est plutôt atypique. Pierre, j'ai eu beaucoup de chance, a pu me suivre voilà, à deux reprises au Svalbard. Donc on vous montre un peu les coulisses de ce qui se passe là-haut. C'est pas du tout un documentaire scientifique, donc on va pas vous balancer plein de chiffres, vous barber avec tout ça. Mais c'est un peu voilà, comment moi je vois ce qui se passe par rapport au climat, par rapport aux jeunes générations, par rapport à la poésie qui est liée autour de ces écosystèmes-là. Donc ne pas hésiter à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez 52 minutes devant vous.
Merci beaucoup Heidi encore d'être passée au Circular Metabolism Podcast.
Merci à toi.